à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Chine. Et oui, après 111 Grands Prix, il l'a fait, il l'a réussi. C'est la première victoire de notre Britney préférée, notre cher Nico Rosberg, qui a fait une course à la Nico. Mais au moins, elle s'est vachement bien terminée pour lui. Pour m'accompagner, bonjour Dino, comment vas-tu ?
Bonjour Shinji, ça va très bien.
Très bien. Et qui est donc avec nous, Dino ?
Il vient de très très loin, puisqu'il vient d'une contrée lointaine. Il nous appelle en décalage horaire, puisqu'il n'est pas la même heure chez lui que chez nous. Mm-hmm. Puisqu'en effet, nous recevons ce soir, pour le Grand Prix de Chine, Eric, qui nous appelle de très très loin, Eric. Bonsoir.
Bonsoir Shinji, bonsoir Dino.
Alors rappelons que Eric, tu avais participé au poleman de l'actu.
Rappelle-toi.
Où j'ai fini brillamment dernier.
Mais brillamment.
Brillamment.
Voilà, brillamment.
Enfin, on se rassure. Hein.
Alors messieurs, cette course.
Ça a été un. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était un superbe Grand Prix, quoi. C'est même depuis les qualifications, bon, et le Grand Prix aussi, ça a été. Ça a été un beau Grand Prix, ouais. Avec beaucoup de bagarres, puisqu'à un moment, il y avait quand même un peloton entre la deuxième et la dixième place, bien groupé, et c'était vraiment sympa à regarder.
Ouais, beaucoup de bagarres, beaucoup de mouvements, beaucoup de stratégies aussi, ça c'était pas mal, au niveau des pneus, il y avait vraiment plein de possibilités, c'était vraiment sympa.
Bah, une course, moi, comme personnellement, je les adore. Voilà, il y a de l'action. Par rapport à l'an dernier, où le mélange des pneus et du DRS rendait vraiment le truc indigeste, là, j'ai trouvé vraiment que la course, on comprenait bien les enjeux avec les stratégies. Et ça s'est pas forcément joué pour la première place, mais au moins, il y a eu du suspense. Et voilà, c'est une course vraiment très, très plaisante.
Ça fait quand même 2 années de suite avec de belles courses en Chine, comme quoi. Alors, messieurs, nous étions ce dimanche, le 15 avril. Mais qu'est-ce qui s'est donc bien pu se passer un 15 avril ? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Alors, je vous rappelle, dans cette éphéméride inutile, je vous donne un chiffre. C'est lié à quelque chose qui s'est passé un 15 avril. Mais quoi? Eh bien, nous allons le découvrir. Non, vous allez le découvrir.
Oui, c'est vrai.
Et donc, le chiffre de cette semaine, c'est le chiffre 241.
C'est un rapport avec un pilote?
Non.
Un rapport avec une écurie?
Non.
Ah non, je suis con, ça n'a pas un rapport avec l'éphéméride.
Oui, oui.
C'est politique ?
Non.
C'est économique ?
Non.
Est-ce que c'est littéraire ?
Non.
Est-ce que ça concerne la conquête spatiale ?
Ça ne concerne pas la conquête spatiale.
Est-ce que...
Ça concerne de l'art ?
De l'art, non.
Est-ce que c'est une unité, 241 ? Est-ce que c'est 241 choses ?
Oui.
241 choses.
C'est 241 choses.
Des personnes ?
Des personnes.
241 personnes qui ont fait quelque chose un 15 avril, qui sont réunis par exemple un 15 avril pour faire quelque chose.
Normalement, ils étaient réunis le 15 avril.
Mais en fait, ça s'est pas passé.
Si, ça s'est passé.
Pourquoi t'as dit normalement alors, Fébé?
Mais parce que j'étais pas là, je peux pas te confirmer.
Ah d'accord. Ah donc c'est un truc très vieux alors.
Voilà.
Est-ce que c'est sportif?
C'est sportif.
Est-ce que ça s'est passé en France?
Non.
Est-ce que la France existait à cette époque?
Oui, la France existait à cette époque.
Ça permet de situer un peu dans le temps.
C'est bien, non, mais c'est...
Donc ça se situe en France, c'est ça, hein?
Non, c'est pas en France.
Non. En Europe?
Oui.
En Allemagne?
Non.
Espagne?
Non.
Italie?
Non.
Grande-Bretagne?
Non.
Un pays de l'Est?
Non.
En Grèce?
Oui.
Oh, ça aurait pas un rapport avec les premiers JO, ça, non?
Oui.
Ah, c'est le nombre de d'athlètes.
Exactement.
Mais depuis tout à l'heure, je me disais, ça c'est un truc à voir avec les JO.
Pourquoi donc, tiens?
Mais je sais pas. Quand t'as dit sportif, je sais pas. Je me suis dit, tiens, ça rappelle les JO. C'est pour ça que j'ai demandé si c'était vraiment très ancien. Parce que si ça se trouve, il nous a retrouvé la date des premiers JO de l'histoire.
Non, mais il y a un joli croisement de dates. Parce que c'est vrai que là, en plus, ce week-end, on était en Chine. Donc, Chine, Pékin, les anciens jeux, les derniers jeux. Là, aujourd'hui, enfin, le jour où le SAV est publié, c'est les 100 jours avant les Jeux de Londres.
Ouais. Donc, un magnifique jour, d'ailleurs.
Voilà. Donc,
donc, demain, c'est une belle journée. Enfin, aujourd'hui, c'est une belle journée. Excuse-moi, j'ai dit.
Donc, comme on dit, tout est lié. Voilà. Donc, bah, ça tombait bien parce que le 15 avril 1896, c'était la cérémonie de clôture. Oui, parce qu'en 1896, l'été, c'était vachement tôt.
Donc, oui.
Voilà, les premiers jeux ont lieu du 6 au 15 avril. Hein, donc voilà, c'était cette date-là. Donc c'est pour ça que je te disais que j'étais pas trop sûr, parce que je sais pas s'il y avait les 241 athlètes lors de la cérémonie de clôture.
Ah d'accord.
C'est pour ça. Alors, ils étaient 241. D'après vous, sur combien de pays, là, juste comme ça, un petit chiffre, une idée?
Une vingtaine.
Ouais, à peu près.
Alors, c'est les chiffres donnés par le CIO, hein, parce que comme c'est vieux, donc pour le CIO, il y en avait 14. Donc il y avait le Chili, les États-Unis, l'Australie, et ensuite il y avait que des pays européens: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, France, hein, donc il y avait des Français, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Italie, Suède et Suisse. Sachant que donc sur les 241, il y avait 169 Grecs.
Oui, bon, ça va.
Ça va.
C'est super l'Olympique.
Est-ce que vous avez aussi une petite idée des sports qu'il y avait lors de ces premiers jeux?
Bon, il y avait de l'athlétisme.
Mais
il y avait des sports super décalés à l'époque. Hein.
Alors, sur cela, non. Non, mais c'est vrai qu'après, ça a été souvent couplé avec des foires internationales. Il y avait des trucs artistiques. Sur cela, non, c'était sportif. Donc, il y avait de l'athlé, en effet.
Du foot?
Pas de foot. Il n'y avait aucun sport collectif.
Aucun sport collectif.
Du tennis? Dans la boxe?
Alors, du tennis, il y en avait. Pas de boxe.
Ah, il y a un sport qui va revenir bientôt, je crois. Il n'y avait pas du golf?
Le golf a failli y être, mais non.
Alors, qu'est-ce qu'il pouvait d'autre y avoir comme sport? Le cyclisme?
Du cyclisme, tout à fait. Sur piste et de route.
Course auto, c'est peut-être un peu tôt.
Un peu tôt, ouais.
qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre?
Pensez aux sports qui pouvaient exister, hein, tout simplement.
Hippisme?
Alors, l'hippisme, c'était inscrit au programme. Mais ça, il n'y a pas eu d'épreuve d'équitation.
Il n'y avait pas de chevaux. Au début, ils ont dit, on va faire ça avec les Grecs.
Mais en effet,
on va leur monter dessus, en fait. Non.
Mais en effet, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup d'équitation. Ça aurait dû, mais ça ne s'est pas fait.
De la natation?
De la natation. Dont une
avec déjà Johnny Westmuller.
Ouais, dont une... Non. Dont une épreuve de 100 mètres nage libre pour marins. Il doit être, y avait que deux épreuves réservées aux professionnels, dont celle-là.
La lutte.
La lutte, oui.
Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre?
Le tir à l'arc.
Alors le tir, mais pas à l'arc. Donc plutôt tir au fusil ou au pistolet.
L'escrime.
L'escrime. Et il vous en manque deux.
Qu'est-ce que ça peut être que les deux autres?
Des sports.
Ouais, il faut qu'on trouve.
Alors ce sont des sports qui sont en salle.
Elle nous aide.
La gymnastique.
La gymnastique.
Ah oui,
voilà,
bravo.
Tout à fait.
Et la danse, non? Il n'y avait pas une épreuve de danse?
Une épreuve de force.
Ah, l'haltérophilie.
Exactement, dont une épreuve d'haltérophilie à un bras. Ah.
Robert Kubica aurait pu le faire.
Il faut préciser qu'il y avait un tournoi de cricket qui était organisé, qui n'a pas eu lieu faute de participants.
Hein, ouais.
Et que Pierre de Coubertin souhaitait inscrire au programme des sports méconnus des Grecs comme le patinage artistique. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas pu faire patinage artistique?
Je sais pas.
Mais parce qu'il n'y avait pas de patinoire dans le pays à l'époque.
Ah, c'est couillon.
C'est bête. Hein. Alors, il y a un tableau des médailles qu'en fait on a confirmé, enfin on a transformé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas ce système encore de or, argent, bronze. En fait, le vainqueur recevait une médaille d'argent avec des lauriers. C'est pour ça, souvenez-vous, en 2004, les gagnants avaient des lauriers, c'était aussi pour rappeler ça. Mais bon, ça a été converti. Donc d'après vous, c'était quel pays? Alors là encore, c'est pareil, hein, puisque on parle de délégation, mais en fait, pendant ces jeux, il n'y avait pas encore la notion de délégation nationale. Mais d'après vous, quel pays a eu le plus de titres olympiques?
La Grèce, ils étaient les plus nombreux.
Alors, la Grèce a le plus grand nombre, 47 médailles pour 10 titres, mais c'est pas eux qui ont eu le plus de titres. Il y a un pays qui en a eu 11.
La France?
Non, on était quatrième.
Bah, Royaume-Uni?
Non, ils ont été cinquième. Tu l'as dit à moitié.
L'Allemagne?
Non. L'Allemagne, ils étaient troisième. Dino, tu l'as dit à moitié.
Bah, États-Unis.
Les États-Unis avec.
Déjà à l'époque.
Déjà à l'époque.
Ah ouais,
Et vous savez qui a été la star de ces jeux?
Johnny Westmuller?
Non, il n'était pas encore.
Gianni Longo?
Non, il n'y avait pas encore.
Ah, Gianni Longo était qualifié.
Il n'y avait pas encore de femme.
Ah, c'est... ah mince. C'est un... Ah, Gianni Longo.
C'est un grec.
Papadopoulos?
Ah, c'est presque ça.
Rastapopoulos?
C'est presque ça.
Poulos?
C'est presque ça.
Demis Roussos?
C'est presque ça.
Ça veut dire Poulos?
Pas du tout. C'est Spyridion Louis.
Ah oui, oui.
Ah,
oui.
Donc tu sais qui, oui. Qui est Spyridion Louis?
Oui, oui. Ouais, non, mais je connais deux noms maintenant de l'affaire curriculum vitae.
Non, mais en fait, c'est le vainqueur du marathon.
Ah,
marathon qui est né lors de ces jeux. Parce que c'est, le marathon est une épreuve qui a été créée pour les Jeux Olympiques. Alors, à noter, hein, le 15 avril en F1, il y a. Alors, si j'ai envie de dire, il y a une grande date. Alors, on peut dire. Celle de cette année est une grande date, hein, parce que c'est quand même la première victoire de Nico Rosberg. Mais il faut se rappeler de cette glorieuse date du 15 avril 2001. C'était le Grand Prix de Saint-Marin qui a vu la victoire de ce grand pilote qui nous a fait rêver pendant 10 ans.
Non, pas Barrichello, je suis con.
Oh non.
C'est pas Kimi à l'époque, Michel Sauber.
Oh non, il a fait une grande carrière.
Ça sent le foutage de gueule, là. Montoya?
Non.
Ralf Schumacher.
C'est Ralf Schumacher.
Ouais.
Et oui, il y a 11 ans, Ralf Schumacher gagnait sa première course.
Ah, c'est sympa, Nico. T'as vu? Tu partages un point commun avec Ralf. Je crois que Nico va bien vu.
C'était sur sa Williams, à l'époque où les Williams gagnaient.
Bah bientôt, elles vont gagner. Hein. Ouais.
Eh, c'est pas impossible, en effet. Alors voilà, ce sera tout pour l'éphémérite de cette semaine.
T'as un bel éphémérite, tu dis.
C'est vrai. Ouais. J'ai cherché, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah tiens, ça va être sympa ouais, ». Dino, nous allons passer à notre invité.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Eric, c'est ton heure de gloire.
Youpi.
C'est ton heure qui ne dure pas une heure, mais que quand même, tu vas être en pleine lumière.
C'est gentil.
Et tu sais sans doute par quoi commence l'heure de gloire.
Bonne question.
Oui, par le pour ou pas pour.
Le pour.
10 questions que nous allons te poser, enfin que je vais te poser, et auxquelles tu ne pourras répondre que par pour ou pas pour. Si c'est tu réponds fait. Contre, t'as une punition. On envoie Shinji te fouetter.
Oh, mais il est loin.
Voilà.
Bah, justement, ça te fera plaisir, Shinji, pour toi, ça sera un cadeau. Déjà que fouetter les gens, t'aimes bien ça, mais là en
oui,
plus,
mais bon, c'est loin quand même.
Oui, t'as le voyage en plus.
Et donc, hein, sur ces 10 questions, tu pourras revenir sur 3. On revient sur différentes actus hein, des 3 dernières semaines, puisque le dernier SAV remonte à 3 dernières semaines concernant un grand prix. Donc, sur les 3 dernières semaines, des faits marquants. Donc, à chaque fois, tu as le temps de réfléchir, tu nous dis pour ou pas pour. Es-tu prêt?
Je suis prêt.
Alors, Eric, pour ou pas pour Button avec Alonso chez Ferrari?
Pas pour.
Pour ou pas pour l'arrivée de McEnroe chez HRT?
Pas pour.
Pour ou pas pour le duct de Mercedes?
Pour.
Pour ou pas pour le Grand Prix du Bahreïn? Ah, elle est dure celle-là.
Pas pour. Elle est dure.
Pour ou pas pour le retour du Grand Prix d'Argentine?
Pour.
Pour ou pas pour le retrait de Lotus de chez Lotus, mais que Lotus reste quand même Lotus?
Question existentielle. Pas pour.
C'est notre spécialité, les questions existentielles. Pour ou pas pour les budgets plafonds?
Pour.
Pour ou pas pour les chauffetasses USB?
Pas pour.
Oh, c'est bien pourtant. Oh. Tes chauffetasses USB, ça chauffe ta tâche, puis c'est branché à l'USB. Pour ou pas pour les doigts d'honneur en Formule 1?
Oui, pour.
Pour ou pas pour, enfin, la traditionnelle, les museaux d'ornithorynque?
Pas pour.
Alors normalement on s'arrête là, mais quand même pour ou pas pour le Grand Prix. J'ai dû le retirer parce qu'il y a beaucoup de choses.
Pas pour.
Oh,
voilà, ça t'apprendra.
J'ai bien fait de la retirer alors.
Ouais.
Mais on marquera, on voit qu'il est à la Réunion, hein, il a pas besoin de chauffe-tasse.
C'est vrai.
Voilà.
Il la pose dehors et 10 minutes après.
C'est bon.
Ah mais en ce moment, il fait même mieux. C'est-à-dire que dehors, il met juste sa tasse avec au fond du café en poudre. Et 5 minutes après, il a non seulement le café plein jusqu'au ras-bord et il est chaud.
C'est génial.
C'est mon run.
Alors, est-ce que tu as trois thèmes que tu veux, sur lesquels tu veux revenir? Donc, je rappelle, Button avec Alonso chez Ferrari, l'arrivée d'un pilote chinois Makinwa chez HRT, le duct Mercedes, le Grand Prix du Bahreïn, le Grand Prix d'Argentine, le retrait de Lotus, le budget plafond, le chauffe-tasse USB si jamais tu le désires, les doigts d'honneur en Formule 1 et enfin le nez d'ornithorynque.
Ouais, on va prendre les doigts d'honneur en Formule 1.
Alors, le doigt d'honneur, tu es pour?
Ouais, j'étais pour. Les budgets plafonds. Et puis.
Tu peux approfondir hein, si tu le souhaites, hein, si tu veux nous.
Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, ah ouais, bon, je reviens sur les doigts d'honneur. Ouais, bon, bah, c'est des hommes, hein, faut pas oublier. Ils sont quand même des fois un peu chauds, et puis même parfois ça les rend un peu plus humains, quoi. Donc. Et puis des fois, bon, c'est assez marrant, quoi.
Oui.
Voilà, donc c'est pour ça que bon, faut pas sanctionner ce genre de gestes. Moi, je pense que ouais, ils sont humains, quoi. Donc les gars, ils ont quand même de l'adrénaline dans le sang, quoi, quand ils font des courses. Et puis voilà, quoi. Donc des fois qu'ils sortent un peu des gants, c'est pas mal.
Voilà. Après les budgets plafonds.
Les budgets plafonds. Alors ça c'est. Alors j'ai dit pour, bon, parce que ça permettrait quand même. Je pense aux petites équipes de se rapprocher un peu du peloton, hein, du milieu du peloton. Par contre, bon, pour la mise en place, c'est la grosse question, comment on pourrait mettre ça en place et quel contrôle est effectué, quoi. Là, c'est vraiment le mon avis, là-dessus, il n'y a pas de solution, quoi. Si on sait que de toute façon, la Formule 1, c'est un sport où la technique est très importante, donc il y a besoin de beaucoup de recherche et ça nécessite quand même pas mal d'argent. Et puis voilà, quoi. Donc, ça, je pense que bon, ça serait bien pour les petites équipes, mais c'est quand même un peu utopique, quoi.
Surtout quand on connaît la proportion des équipes à toujours s'unir pour la bonne cause.
Oui, hein, on l'a encore vu cette année.
Et donc, une dernière actu que tu souhaiterais approfondir?
Allez, on va dire Button avec Alonso chez Ferrari.
C'est ton rêve?
Non, je pense que non. Non, justement... Alonso, lui, il a fait un choix de carrière. Bon, de toute façon, les deux, je pense qu'ils finiront dans leur carrière là où ils sont. Hein. C'est-à-dire Alonso chez Ferrari et Button chez McLaren.
Ah, oh, c'est dommage.
Bah, c'est dommage. Non, bah, il faut.
Ah non, parce que moi, je voudrais bien Button.
Ouais. Non, on comprend pourquoi, mais. Non, mais bon, c'est. Je sais pas, je pense que les deux ils sont arrivés quand même à un niveau et je vois mal cohabiter, je veux dire qu'ils auraient aucun intérêt ni l'un ni l'autre à ce qu'ils soient ensemble, quoi. Bon, pour Ferrari, ça serait super, c'est sûr, mais bon,
Ah ouais.
Bah ouais, au niveau pilote entre Alonso et Button, bon, je vois pas l'intérêt d'avoir une telle équipe, quoi.
Oui. Enfin,
au niveau pilote, quoi. Cohabiter en fin de carrière avec deux personnes comme ça, non, c'est pas dans la même équipe.
Donc, ça, c'est pour les actus du pour, pas pour. Tu as été brillant, mais maintenant, il te reste à répondre à des questions encore plus essentielles. À commencer, Eric, par la question suivante. Quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre depuis 3 semaines?
Elle s'appelle Suzy Wolf, là, qui a été nommée...
Oui.
Pilote d'essai là, chez
ouais,
Williams.
Ouais. William. Alors Suzy Wolf, ouais. On peut rappeler le parcours.
Oui, parce que c'est intéressant.
Donc le parcours sportif, on s'en fout un peu. Sigol, c'est qu'elle a rencontré Toto Wolf, voilà, qu'elle s'est mariée avec, et que maintenant elle est chez Williams. Et que
il n'y a pas du tout de lien ce que ça a fait.
D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il l'a dit, Franck Williams. Mais je tiens tout de suite à dire, hein, c'est pas parce qu'elle est la femme de Toto. Hein.
Pas du tout. Hein.
Elle a quand même fait pas mal de choses en DTM, je crois, Suzy Wolf. Voilà, et c'est vrai que ça peut apporter un regard. Apparemment, elle a un vrai rôle. Là où.
Ouais, je pense que c'est un rôle marketing.
Oui, voilà, c'est un vrai rôle marketing.
Et donc, si tu avais un pouvoir magique, quelle serait l'actu que tu aimerais lire dans les prochaines semaines?
Oh, une petite victoire de Kimi Räikkönen.
Ah, avec une fouille. Ah.
Mais non, ça serait pas mal. Ça mettrait un autre vainqueur encore. Ça resserrait au nouveau championnat. C'est pas mal.
Et sinon, tu as des pilotes préférés, des écuries préférées
Oh ben, ouais, bon, moi j'aime bien le style Button. Après, il y en a un que je trouve qui est pas mal cette année, là, c'est Weber. Oui. Je pense qu'il va faire un peu mal à Vettel.
Ça a déjà un peu commencé.
Oui.
Enfin, je crois que c'est Horner qui l'a dit aujourd'hui, hein, que Vettel avait du mal à s'adapter à la nouvelle voiture parce qu'il était trop long dans les virages rapides.
Ouais.
Et ça, Weber l'avait déjà souligné, il me semble, il y a déjà un an ou deux ans, en disant que Vettel avait du mal dans les virages rapides.
Bah, c'est vrai que ce qui commence à sortir, c'est que si Vettel n'a pas une voiture à sa main, il est en difficulté.
Ouais, voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a pas tout. Et puis en plus, je pense que là, en plus, Vettel, il y a quand même Newey, il n'est pas né la dernière pluie. Lui, je suis sûr qu'il est convaincu que la nouvelle conception échappement, c'est ce qui.
Il l'a dit, hein.
C'est ce qui leur permettra de gagner. Mmh. Et alors que Vettel, lui, fait le chemin inverse, quoi. Là, je pense qu'il va. Ça ne va pas jouer en sa faveur. Parce que je pense que Newey va quand même imposer la nouvelle forme des échappements.
Et donc, toujours imaginons que tu as un pouvoir magique qui permet de dessiner l'actu de l'avenir, quelle serait au contraire la pire actu, celle que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Ah, la pire actu? Oh, je dirais, un gros crash en Formule 1 avec un décès d'un pilote, quoi.
Peut difficilement
ouais,
faire
c'est
pire.
Joyeux, hein. Ouais, c'est joyeux. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, c'est un truc qu'on n'aime pas. Quoi.
Et donc maintenant, on passe à la dernière partie de cette heure de gloire, Eric, qui est de savoir, est-ce que tu as un drive-thru à émettre?
Je vais le mettre carrément à la FIA.
Ah, oh, mais pour quelle raison?
C'est dingue.
c'est bizarre, aucune idée.
On se demande, pour une fois que la FIA, franchement, ne fait rien pour mériter
oui,
un voilà. Drive-thru, je suis curieux.
C'est vrai qu'il n'y a aucune communication, rien du tout à propos de Bahreïn, de la position de Bahreïn, rien, ça a été le silence radio, alors que c'est eux qui ont en principe le pouvoir de dire oui ou non. Enfin, ils ont fait vite un communiqué en disant oui, mais aucune explication, rien du tout, quoi. C'est un peu bon, on y va parce qu'il y a des sommes d'argent en jeu et puis on se cache, quoi. C'est un peu dommage.
Bah, c'est vrai que ce qui est surtout très étonnant, c'est que quand ils disent on y va, c'est qu'ils disent on y va parce que les autorités locales nous
oui,
ont dit que ça se passerait bien.
Super.
Sauf que c'est justement ce qu'on reproche, c'est qu'on craint justement qu'en allant là-bas, ça se passe bien pour la F1, mais que ça se passe mal pour les protestataires qui voudraient influencer, se servir de la F1 comme d'une vitrine.
À mon avis, c'est sûr qu'il va y avoir des rapports de force. Bon, c'est un peu inquiétant, à mon avis, parce que c'est sûr qu'ils vont essayer d'utiliser le fait que la F1 soit là, et notamment avec toutes les chaînes étrangères, pour revendiquer que ils vont tout faire pour empêcher cela. Enfin, c'est clair.
Certaines chaînes n'iront pas. Hein.
Oui.
Ouais, bon, ouais.
Et il n'est pas sûr que les gens de TF1 y aillent. Ça n'a pas été confirmé ni infirmé, mais apparemment, au moment où on enregistre mardi, il disait possibilité qu'il commente de Paris. Bon, ça, après, on verra.
Ouais. Bon, enfin, après, bon, l'histoire nous dira ce qui va se passer. Quoi.
Bah moi, c'est un peu ma position, c'est que aujourd'hui, on y va. Enfin, la FIA a dit qu'on y allait. Donc, voilà, tout ce que j'espère maintenant, j'avais pas forcément envie d'y aller. Maintenant, ce que j'espère, c'est que ça va bien se passer. Et ce que j'espère surtout, c'est que les manifestants vont se raviser peut-être. Ou alors vraiment, enfin, si vraiment ils y vont et ils savent qu'ils vont au casse-pipe parce que les autorités vont tout faire pour défendre le Grand Prix, s'ils y vont, ça dynamitera peut-être la situation. Mais j'espère que les manifestants et que tout va bien se passer et que les manifestants vont peut-être un petit peu renoncer à s'en prendre au Grand Prix parce que j'ai peur de la réaction des autorités locales et
oui,
j'ai
non,
peur finalement de. Moi, la position de la FIA, j'aimerais qu'on n'y ait pas, mais en même temps, je comprends pourquoi ils y vont. Enfin voilà, il y a des contrats, il y a tout ce genre de choses. Et
Moi, écoute.
Moi, je pense juste que la seule raison pour laquelle ils sont allés, c'est une question de contrat, quoi. Voilà.
C'est tout à fait une question. C'est ce qu'on avait expliqué dans l'un des articles. C'est le premier qui renonce, c'est celui qui paye. Donc du coup, la FIA a sans doute confirmé en se disant le Bahreïn va peut-être derrière renoncer.
Mais c'est pour ça qu'ils ont attendu jusqu'au dernier moment et puis voilà. Quoi.
Et c'est pour ça qu'ils ont laissé, comme on l'avait dit il y a 2-3 émissions, qu'une seule semaine entre la Chine et le Bahreïn. Alors je sais pas toi, Chini, mais moi j'ai un drive through qui est presque similaire.
Bah moi aussi ça tournait à peu près autour de la même chose. Moi enfin à la limite pour le coup pour compléter, je le mettrais aux équipes parce que on sent bien que il y a beaucoup de monde qui ne veut pas y aller mais personne ne dit rien.
Bah moi encore pour compléter, j'ai dit
voilà.
Moi j'aurais mis un drive through un peu pareil, alors sans forcément viser Williams.
Oui, c'est vrai que
Le cas Williams montre bien la situation, donc on rappelle un peu c'est que Williams apparemment s'est séparé d'une de ses employées qui est une employée de cantine, je crois. De ses employées qui avait manifesté le souhait de ne pas aller à Bahreïn. Elle avait un contrat pour les 20 courses, ayant décidé de ne pas aller à Bahreïn, elle enfreignait les termes du contrat et Williams a donc trouvé apparemment un accord avec cet employé pour mettre un terme à son contrat. Mais le but quand même de derrière de Williams, c'est d'éviter de donner l'exemple aux autres personnes de l'entreprise et peut-être à des personnels un peu plus importants. Cela, bon, c'est une femme de cantine, donc entre guillemets, c'est pas un personnel. Ils vont facilement trouver un remplaçant, mais un ingénieur ou un pilote, il va avoir plus de mal. Et c'est pas tant contre Williams, mais c'est surtout contre cette impression qu'on a, c'est que autant on a eu un débat sur le site sur ceux qui vont boycotter le Grand Prix ou pas devant leur télé, là c'est la liberté de chacun. Là autant on a vraiment l'impression en Formule 1 que personne n'est libre véritablement de boycotter la course s'il le souhaite, de dire j'y vais pas. Même ne serait-ce de dire je n'y vais pas parce que je suis inquiet pour ma sécurité.
Pour le coup, je trouve cette femme, elle est super courageuse.
Oui, parce qu'elle renonce à son travail pour ses convictions.
Parce qu'il y a des dizaines de personnes qui doivent pas penser différemment d'elle et qui ne disent rien et qui vont aller à Bahreïn alors que sans doute elles sont inquiètes pour leur sécurité.
Bah c'est sûr. D'ailleurs, ouais, à propos des équipes, enfin c'est là où j'ai bien aimé aussi le. Eccleston qui disait ah non les équipes elles sont libres mais bon ils ont des contrats quoi.
Oui bah oui voilà le pire c'est qu'elles pourraient avoir une influence quand tu vois que Red Bull il se dit qu'ils vont y aller mais que si jamais il se passe quelque chose ils vont tout remballer direct. Imagine que ne serait-ce que des on a déjà évoqué en plus ça, je suis certain qu'on en a déjà parlé dans le SAV, mais imagine que Red Bull, McLaren et Ferrari, ils disent non, on n'y va pas.
Comme ils ont fait à Indianapolis en 2005.
Voilà.
Ils l'ont fait pour des pneus, pour des raisons de sécurité. Il faudra qu'ils le fassent là aussi, c'est pareil.
Ne serait-ce que s'il y avait eu des grosses équipes, par leur aura, par l'audience qu'elles ont, peut-être qu'il y aurait eu quand même la course, mais le simple fait que un certain nombre d'équipes n'auraient pas été là, ça aurait sacrément mis la merde, hein, pour bien dire, hein, sur le Grand Prix. Et finalement, personne ne dit rien.
Non, mais de toute façon, les équipes, elles sont actuellement en pleine négociation des accords Concorde. Hein,
certaines ont déjà signé. Hein.
Oui.
Mais c'est pas encore paru. Soi-disant, elles ont signé et tout. C'est pas encore.
C'est que dans les accords Concorde, elles doivent participer à toutes les courses. Bon. Que bon. Bernie aussi, il est payé, c'est-à-dire que le Bahreïn paye aussi pour un plateau. C'est toute la F1 qui doit venir. Si par exemple Ferrari ou McLaren décident de boycotter, le Bahreïn, ils vont venir voir avec le store en disant, nous on a payé pour avoir Ferrari et McLaren. Il n'y a pas Ferrari, McLaren. La valeur, elle n'est pas la même. Donc c'est là où le rôle de Bernie aussi est important. Où je comprends aussi Bernie. Enfin voilà, il a des intérêts économiques. Voilà, l'an dernier, il a réussi à sauver 23 millions. Cette année, il se dit peut-être qu'il va essayer de faire pareil. Et aujourd'hui, le Bahreïn, ils se disent, il est hors de question qu'on s'assoie une nouvelle fois sur 20 à 25 millions d'euros ou de dollars, je sais pas.
Non, mais de toute façon, après, à mon avis, de toute façon, je pense que c'est quand même le dernier Grand Prix à Bahreïn, quoi. Venir l'année prochaine, ils vont.
Je sais pas jusqu'à quand il est le contrat. Est-ce que tu sais, Dino?
Ils n'avaient pas refait un contrat de 10 ans il y a 3 ou 4 ans.
Oui.
Ils n'ont pas un contrat.
Ouais, je ne sais pas, mais ils ont trouvé une clause comme quoi. Moi, je pense que comme il y a
pas mal. Le problème, c'est que souvent, quand ça va pas au bout, c'est que ça se pète la gueule financièrement. Et le problème, c'est qu'on sait qu'au Bahreïn, il y aura jamais ce souci.
Mais non, mais justement, le problème, c'est ça aussi, c'est que même, ne serait-ce même que l'existence de ce Grand Prix est un non-sens, vu que économiquement, c'est l'un des pays du Moyen-Orient qui s'en sort le moins bien. Qui est le plus frappé par la crise, etc. Et ils ont un Grand Prix de Formule 1, quoi. C'est-à-dire que là, on a le Qatar qui voudrait avoir un Grand Prix d'ici 2018-2020. Mm. Bon, eux, financièrement, ils ont les ressources. Le problème, c'est que le Bahreïn, ils ont très peu de ressources. Là où autour d'eux, ils ont des mecs qui ont du gaz, du pétrole et compagnie, le Bahreïn, c'est un petit peu un paradoxe dans ce milieu-là. C'est que c'est un petit archipel d'îles qui est une voie de passage et compagnie, où on fait du négoce, mais ils n'ont pas véritablement de grosses ressources naturelles qui en font un gros pays qui a des ressources sans fond, comme peuvent être Abu Dhabi ou comme peuvent être les autres. Ils vivent surtout au crochet en fait de grandes puissances, notamment
l'Arabie Saoudite,
puisque les pouvoirs, alors je crois que c'est la population est chiite et le pouvoir est sunnite.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc, c'est plutôt lié à l'Arabie Saoudite.
Mais si on va passer à la course de ce week-end.
Ouais.
C'est où enfin, déjà ça,
pardon. C'était dans un pays qui vaut bien, qui vaut beaucoup mieux d'ailleurs que le Bahreïn.
Ah oui, oui.
Oui, rappelons que ce week-end, les gens n'avaient pas Twitter.
Oui.
Alors, c'est sûr, les gens ne meurent pas, c'est sûr. Bon, mais les gens ne peuvent pas communiquer librement. Les gens n'ont que difficilement accès à Google. Le SAV de la F1 est interdit en Chine.
Ah bah vu tout ce qu'on peut dire,
il y a des chances.
Il y a des chances. Et faut en être fier.
Oui, c'est vrai.
Il y a des pays comme ça, faut être fier d'être interdit. Et donc on va d'abord revenir au qualif. Et cette semaine, eh bien c'est un Français, le con de la semaine.
C'est pas déjà la deuxième fois?
Je crois, oui, mais il faut avouer que là, ton Rosso, j'allais dire, c'est pas tant lui que l'équipe quand même, parce que même Ricciardo, on a vu que c'était pas terrible quand même. Et oui, c'est Jean-Éric Vergne, puisque lui.
Il y a en plus, si je me souviens bien, en qualif, il a renoncé à un tour pour. Il restait quoi, 5-6 minutes. Il était en train de faire un tour où il améliorait son temps, et en fait, il a préféré rentrer au stand pour chausser un nouveau train de pneus, pour être sûr d'avoir un bon relais complet, pour au final pas pouvoir se qualifier, quoi. Donc il a renoncé potentiellement. Peut-être à une qualification pour essayer de se qualifier,
parce que c'est vrai qu'en même temps, tu vois, son coéquipier Ricciardo, je crois qu'il fait 17ème de la Q1 et il fait 17ème de la Q2, donc
et ils se sont battus tous les deux, hein.
Oui,
c'est ça, ouais.
C'était pas la fête pour ce week-end.
Il y a quasiment pas eu de suspense pour la place du con, hein. On savait très bien que c'était soit, alors, il y a eu un moment donné, il y a eu du suspense, je sais plus qui était, il y a eu Massa, je crois, qui était 16ème ou un truc dans le genre.
Il y a eu Massa, je vais pas dire qu'il risquait quelque chose, mais Vettel s'est quand même fait une petite frayeur.
Oui. Hein. Oui. Il y a eu Alonso aussi, je crois, à un moment donné.
Non, parce que Vettel, quand même, il rentre. En plus, il pose la question, est-ce que c'est bon au niveau de temps?
Ouais.
Et son équipe, il dit, ouais, c'est bon. Je crois que quand il rentre, il est 8e ou 7e. Et boum. Et je crois qu'il a fini 15e de juste de la Q1. Ouais. Il a pas vraiment risqué sa place, mais quand même.
Ouais,
sinon,
ouais, c'est...
Voilà. Sinon, en Q2, donc, je l'ai dit, un Ricciardo 17e, donc, comme quoi, vraiment, il a entre guillemets confirmé sa Q1. Les Force India qui font que 15 et 16. C'est moyen, ouais. Quand même, les Force India. On s'attendait à mieux. Les Williams, j'ai presque envie de dire qu'ils se qualifient mal, 13e et 14e.
Mais assez étonnamment, je crois que c'est la deuxième fois qu'ils se qualifient pas en Q3. Donc, à part Maldonado qui s'est qualifié en Australie, en 6e place, je crois. Mais sinon, en Malaisie, ils s'étaient pas qualifiés en Q3. Et là, cette fois-ci, ils sont pas qualifiés en Q3.
Massa qui fait 12. Moi, je suis 12e, j'y ai presque cru.
Bravo, Felipe!
Il se rapproche hein, quand même. Il se rapproche de Alonso.
Ouais.
Ouais.
Si, non, mais en temps, ouais, t'as fait 3 millions.
Non, mais c'est surtout, c'est là où je trouve un peu dommage. S'ils avaient eu. Alors là, on a fait un drive-through un peu spécial Bahreïn. Mais si on avait pu, j'avais pu mettre un autre drive-through, j'aurais mis la presse italienne qui a eu très très méchant vers lui. Alors qu'il fait moi j'ai failli le mettre dans les points. Il a fait une plutôt bonne course, je trouve. Voilà. Une course, faut pas non plus s'attendre à ce qu'il fasse des miracles avec la voiture. Elle ne lui permet pas. Et puis, faut quand même pas oublier, c'est qu'en face, il a Alonso qui a quand même toute l'équipe à sa main. Et tout, donc.
Ah ouais.
Et donc à la 11e place, ça a été la surprise quand même de la, La première...
Et je l'ai raté. C'est pour vous dire que bien qu'ayant animé, je dois m'expliquer auprès de Ben. Ben, excuse-moi, je t'ai lâché pendant à peu près 10 minutes tout seul sur le
live.
Mais non, parce que j'ai le facteur qui a sonné à ce moment-là pour me donner mon portable.
Ah.
Voilà, donc voilà, j'ai reçu mon portable pendant les qualis.
Ben, t'as
sauf que le problème, c'est que le facteur est venu devant ma porte. Voilà, j'habite dans un immeuble, donc voilà,
ben, il est venu Ben, ta solitude vaut un Sony Xperia, je l'ai dit. On est transparent ici.
Et en fait, j'ai pas retrouvé mes clés. J'avais fait le ménage la veille. Enfin, moi, quand je fais le ménage, je perds les trucs. Et j'ai pas retrouvé mes clés. Donc, je me suis retrouvé 10 minutes à faire attendre le facteur pendant le live en regardant, en essayant de voir. Bon, faut que je voie un peu ce qui se passe quand même pour retrouver mes clés, pour aller chercher mon portable et ensuite reprendre le live. Et donc voilà, donc j'ai raté la fin de la Q2 et le début de la Q3.
L'événement de la journée.
La Vettel qui coince en Q2.
En Q2.
Ouais.
Et il a dit que c'était pas dû au châssis. Hein. Il a passé tout son week-end à se défendre en disant non, mais j'ai bien fait de choisir ces échappements-là.
Ouais, trop,
Sébastien.
Quand Marc est clairement devant toi, c'est qu'il y a peut-être un truc.
Non, mais moi, ce que j'ai fait, là, j'ai regardé par rapport à tous leurs meilleurs secteurs. Hein, donc, pas le temps qu'ils ont fait, hein, les meilleurs secteurs qu'ils ont fait dans dans tous les EL et puis en qualif. Et à chaque fois, sauf le vendredi après-midi, mais chaque fois, Weber est devant. Hein, chaque fois.
Puis en plus, très solide dans les EL2, dans le secteur 2.
Il fait meilleur temps.
Dans le secteur 2, très solide. Ouais. Et le problème, c'est un peu moins bon en fait dans le secteur 3 avec la longue ligne droite. Parce que tout simplement, ils ont manque d'appui. Et c'est là peut-être où se fait la différence entre les échappements en Chine. C'est que comme ils sont placés différemment, ils offrent peut-être moins de vitesse de pointe à l'un ou à l'autre dans la ligne droite.
Ouais, parce que quand tu regardes sur le secteur 3, par exemple, ce que tu dis là, c'est comment il s'appelle, Weber, il met quand même un dixième à Vettel, quoi.
Et donc en Q3, on trouve Grosjean qui n'a pas fait de temps en Q3, hein, mais donc qui réussit.
Parce qu'il avait bouffé tous ses pneus temps.
Voilà, mais ouais. Qui réussit quand même donc à placer de nouveau la voiture en Q3. Alonso qui fait 9. Ce qui fait qu'au niveau de la grille de qualif, finalement, l'écart, en effet, là, on le voit, entre guillemets, entre Alonso et Massa est relativement faible, hein, 9-12. C'est plus petit, en tout cas, que ce qu'on a vu auparavant.
Oui. Et je crois que si je me trompe pas, ça fait quand même déjà deux fois que Alonso, il est 9e.
Et mais en même temps, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que...
Non, mais en Malaisie, il est 9e, si je me trompe pas.
Voilà. Je veux dire,
normalement, Fernando, t'aurais dû te battre avec Grosjean pour la victoire.
Voilà, je veux dire, quand t'as de la McLaren, de la Red Bull, de la Lotus, de la Sauber, et maintenant de la Mercedes qui s'y mettent.
Oui, c'est là que ça commence à devenir dur.
Perez hein, qui fait 8, Weber qui entre guillemets fait que 7, alors que juste finalement, moi je l'aurais bien placé, je l'aurais bien imaginé plus haut en tout cas, mais donc. Il reste derrière Button qui fait 6, Kimi qui fait 5, qui encore une fois confirme son bon retour. Ça y est, je l'ai placé.
Allez, t'es content?
Voilà.
Faut vous dire, hein, il gagne 1€ à chaque fois qu'il place. Alors.
Une excellente 4e place de Kobayashi.
Oui. Mm. Très surprenant, les Sauber ce week-end. Mm.
Oui.
Surprenant en qualif et surprenant en course.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est quand même l'équipe dont on sent qu'en course, ils ont énormément de potentiel et dont on se méfie. Même Button s'en méfiait. Et là, en course, ils sont passés un peu à travers.
Mm. C'est-à-dire que, honnêtement, sur le coup, même moi, après la qualif, je m'étais dit, mon Dieu, si jamais les pneus de la Mercedes tiennent pas,
c'est
Kobayashi, il est 3, quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Moi aussi, je me suis dit ça. Hein. Je me suis dit... Que Koba il avait une bonne chance quoi.
Alors Shumi qui fait 3 et qui d'une certaine façon continue sa lancée hein, du 4-3-2 même si dans les temps il fait une nouvelle fois une troisième place, mais en fait il fait quand même 4-3-2 hein, puisque Lewis hein, a eu sa pénalité. Faites gaffe à Bahreïn.
En principe c'est la pole.
Ça fait 3 grands prix qu'on le dit. Donc Shumi donc déjà quand même un super bon temps. Lewis aussi parce que ça fait après deux pôles, cette McLaren elle est rapide, et donc j'ai envie de dire ce tour parfait, c'est bien simple, il l'a fait, il est rentré, est resté quelques minutes, il est même pas ressorti.
Mais il n'est pas ressorti parce qu'en fait, à tout d'un coup, la température de piste a chuté de 5 degrés. Et il s'est dit, ça sert à rien que je ressorte parce que je vais jamais améliorer. Et les autres derrière l'ont dit, enfin, par exemple chez McLaren, ils ont dit, on pouvait pas le rejoindre parce que tout simplement, avec une piste plus froide, les pneus ont fonctionné moins bien, on allait moins vite.
Une piste qui était déjà froide et qui s'est refroidie, faut le dire.
Oui.
C'était drôle, les caméras thermiques, parce que c'était dans les violets. C'était bleu violet. Alors que genre, tu fais la même chose à Bahreïn, ça va être du jaune au rouge. En général. Là, mais c'est bien, au moins, tu vois bien les pneus quand c'est comme ça. Donc, déjà, c'était un très bon samedi, parce que c'était la première pole de Nico.
Oui.
Mais comme on dit, le meilleur était à venir.
La première depuis Monza 55.
Oui.
Et Juan Manuel Fangio.
Pour une voiture complètement Mercedes. Voilà.
Ouais, ce que j'ai noté aussi, c'est le faible écart qu'il y avait quand même en Q2. Quoi. Sur les 12 voitures, sur les 12 premières voitures, l'écart était vachement faible.
Bah, c'est quelque chose finalement d'assez global hein, sur tout le week-end. Hein, c'est qu'on a eu des écarts très faibles finalement entre les voitures, que ce soit en qualif et même en course, hein, parce que tu l'as dit. On a tous vu cette belle file indienne.
Ah oui, non, c'est...
Bon, j'aime bien un mec, elle reste comme ça.
Ouais.
Non, moi j'ai bien aimé.
La prochaine fois, vous serez gentil, vous enlèverez 10 tours à la course. Et donc, monsieur, on va passer au top 10.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors, Dino. Qui sont les malheureux qui ne feront pas partie du top 10?
Alors avant tout, on tient à vous remercier parce que vous avez été quand même pas mal nombreux à participer. Oui. Alors que vous avez sans doute vu sur FanF1, il y a une nouvelle version du site qui est sortie pile poil pour le jour du SAV de la semaine dernière.
Oui.
Voilà. Donc il y a une nouvelle version. D'ailleurs, on félicite Romain qui a tout fait. Et vraiment, le site est super et vraiment nickel. Donc il y avait quelques bugs. Donc du coup, on a été pris dans un bug sur le formulaire qui ne fonctionnait pas.
On a été surpris par le bug.
Voilà. Donc ce qui fait que tout le formulaire n'a pas pu réparer le formulaire dimanche parce que bon, c'est dimanche. Et donc Romain en a profité. Là encore une fois, on le remercie pour améliorer le formulaire, ce qui fait que maintenant vous êtes obligé de voter pour Deep Pilot. Il y en a qui restent quillés. Vous êtes obligé de choisir 10 pilotes différents parce que là encore il y en a sans doute qui restent quillés, compagnie. Et vous ne pouvez toujours voter qu'une fois. Donc
avec
voilà.
Ce petit détail cocasse hein, que certains ont remarqué.
Avec Keke Rosberg.
Keke Rosberg est revenu à la compète.
Et donc quand même vous avez été très nombreux à participer, donc on vous en remercie, hein, que ce soit sur le site ou sur aussi le compte Twitter, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitter. Voilà. Et donc voilà, notons que le vainqueur de ce top 10, Shinji, tu vas être content. Toi qui aimes les chiffres ronds, toi qui as eu dû apprécier le temps de qualification de Karti Kayan, je crois qu'il a fait 1:41.000. Ouais. Eh ben tu vas apprécier là, puisque le vainqueur, il a marqué 1500 points.
Ouais, tout pile.
C'est-à-dire que s'il avait fait l'unanimité, il y a 60 personnes qui ont voté, ça veut dire. Voilà. Et donc, en 22e position, nous retrouvons Kovalainen, Karti Kayan et Glock qui sont ex-aequo avec 0 points. Bouh, les nuls. Ensuite, en 21e, nous avons Pedro de la Rosa avec 1 point. En 20e, nous avons Nico Hülkenberg, je vais faire dans toutes les langues, avec 2 points. Ah non, je vais m'arrêter au 19e, parce que le 19e, c'est l'accent écossais, et là, je ne maîtrise pas du tout. Alors, 19e, Diresta avec 4 points. 18e, Ricciardo avec 4 points, donc ils sont en fait ex-aequo à la 18e place. 17e, Charles Pic avec 5 points. On rappelle que le vainqueur, il a 1500 points. C'est important. On a 16e Petrov avec 6 points. Puis là, il y a une petite marchouille avec Massa 15e, 16 points. Puis encore une petite marchouille. Pérez 14e avec 98 points.
Belle marchouille. Marchouille.
Puis 13e Maldonado avec 108 points. 12e Jean-Éric Vergne, 135 points. Et cette semaine, Mister Eleven est un japonais. Kamui Kobayashi avec 227 points. Vers la fin, j'étais obligé.
Avec des écarts assez faibles hein, autour de la 10e place d'ailleurs.
Oui.
Dino, tu as donné un point à Jean-Éric Vergne.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il est parti des stands. Donc
c'est
il
vrai.
Est parti quand même avec un sacré désavantage et qui finit devant Ricciardo. Voilà. Donc, voilà.
Non, mais.
J'ai bien aimé sa course. En plus, je crois qu'il fait le deuxième ou le troisième meilleur tour en course, je crois.
Le deuxième.
Le deuxième, voilà, pendant très longtemps, il a tenu assez longtemps d'ailleurs le meilleur tour en course. Ouais. Il l'a amélioré tour après tour, donc non, voilà, une course très lointaine ou sans chance, mais il s'est battu et il a fini devant son coéquipier, c'était plaisant.
Ouais, comme quoi revenir des fois à une version antérieure, c'est pas mauvais.
Non, oui. Bah non.
Regarde Vettel, ça a marché.
Ah,
mais Vettel, c'est les pneus qui n'ont pas marché. Je suis désolé, messieurs.
Sinon, alors moi et Eric, on a donné des points à Kobayashi.
Eric et moi, Shinji, voyons. Ah.
Oh, ouais.
Monsieur
je
Hugo.
Sais que,
monsieur...
Je sais que dans ton classement, tu as toi et après Eric. Mais quand même.
Oui. Non, il n'y a pas marqué Eric, il y a marqué Guest.
Ah.
Donc Eric, maintenant on t'appelle Guest. Hein.
Non, je ne fais pas des tableaux types. Je ne fais pas des tableaux types que je récupère à chaque Grand Prix. Pas du tout. Donc Eric et moi, nous avons donné des points à Kobayashi. Eric en a donné 8. Moi j'en ai donné 2. Moi c'est principalement pour la qualif. Ouais, je vois Eric aussi. Ouais. Aussi hein. Parce qu'Eric, il a mis des petites explications dans le mail qu'il m'a envoyé.
Ouais, c'est vrai.
Et sinon, donc, toi et Dino, vous avez donné des points à Maldonado. Dino, ouais. T'en as donné 2 et toi, t'en as donné 4.
Ouais. Ouais, parce que sa course, finalement, elle est pas si mauvaise que ça. Bon, à part ce... après, bon, il y a la petite friction avec Grosjean, quoi.
Oh, c'était bon. Ça. Oh, c'était bon.
Ouais, là, c'est superbe. Hein. C'est,
quand j'ai vu arriver à Grosjean, je fais ouh, dis donc.
Grosjean, Maldonado.
Waouh.
Ouais.
Apparemment, ils ont un petit
Non, non, mais là... c'est pour ça. Après, bon, je crois qu'il casse un peu son aileron et tout, et puis il recule un peu, quoi. Mais
ouais,
sinon, cette course était pas mal jusqu'alors. Hein.
C'est même battu après, je crois, face à Alonso.
Ouais,
si vous ne trompez pas, ouais. Il finit 8e devant Alonso et Perez, ou un truc dans le genre. Et il y a un moment donné où ils sont à 3 au bout de la ligne droite des stands avec t'as Maldonado, t'as Alonso, puis t'as Perez à l'extérieur, puis Alonso qui doit se dire mais merde, ils sont tous les deux autour de moi, comment je tourne. Voilà, moi je trouve qu'ils ont fait une belle course, les Williams, les deux Williams, ils ont roulé un peu en armada et voilà, donc je les ai mis dans l'ordre de la course et c'était important pour moi de les laisser dans le top 10 parce que voilà, ils font une très belle course.
Et donc à la 10e place. Eh ben, c'est l'autre pilote Williams. Il a marqué 242 points. Donc, vous voyez, hein, 227.
Mais il n'en marquera qu'un.
C'est Bruno Senna, dont tu lui as donné 4 points, Dino. Et Eric et moi, on lui a donné 1 point chacun.
Ouais. Bah,
je l'ai mis dans le classement. Voilà. Je l'ai mis. je l'ai mis 8e parce que voilà, je voulais le mettre devant Maldonado et que je ne pouvais pas le mettre derrière Vergne. Ça aurait été trop. comment dire, trop franchouillard.
Non, mais bon, ouais, moi j'ai mis dans le classement parce que bon, finalement il fait quand même une course solide.
Ouais, il fait une belle course.
Et puis voilà, quoi. Et puis bon, voilà, bon week-end, je trouve, pour Bruno Senna qui marque des points. C'est bien.
Non, puis c'est bien parce que c'est vrai que ces deux pilotes-là, quand même, chez Williams, on va dire qu'ils n'étaient pas gâtés par l'opinion qu'on donnait d'eux en début de saison.
Oui. Mais non, on peut pas dire ça, j'ai dit. Non.
Et pour l'instant, voilà, ils font de belles choses avec cette équipe. Dans ce cas-là, passons à la 9e place. Il a marqué 275 points. Donc là encore, les écarts sont faibles. Moi, je l'ai mis au classement et aussi pour sa qualif. C'est Schumi. Alors vous, je sais que vous ne l'avez pas mis. Moi, je l'ai mis pour sa qualif parce qu'en effet, encore une fois, 3e, qui se retrouve à une 2e place. Il était plutôt dans le rythme en début de course. Même si bon, on l'a pas vraiment vu non plus coller Rosberg. On voit bien que Rosberg a mis de l'écart
oui,
assez vite.
Il est encore une fois 3e, mais il est derrière Rosberg.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a 3e en Chine et 3e en Malaisie. En Malaisie, 3e, c'était très beau. 3e en Chine, voilà.
Oui, voilà.
Forcément. Fait Rosberg,
Mais c'est dommage, parce que c'est pour ça que j'ai quand même moi voulu lui mettre des points, parce que finalement, s'il avait pas eu ce problème d'écrou, hein, il aurait peut-être pu faire de belles choses.
Non, moi je pense pas, non, parce qu'il était pas dans le. Moi je trouve qu'il était pas trop dans le coup, justement, comparé aux deux précédents Grands Prix, justement là il s'est fait, comme l'année dernière, il s'est fait déborder par Rosberg. Il est toujours derrière lui, quoi, aussi bien en essai qu'en course. Je trouve que non, qu'il n'a pas trouvé, il n'a pas bien utilisé sa voiture, il n'a pas trouvé la quintessence de la voiture.
Le premier relais, il n'est pas extraordinaire. Enfin, il se fait déposer par Rosberg. Ouais. À un moment donné, il fait le bouchon, on ne sait pas comment, ouais. Mais il reprend le large par rapport à Button. Mais quand même, au début de course, si on a une belle file indienne, c'est en partie grâce à Schumacher. Mais c'est pour ça que je l'ai mis parce que, bon, non, j'ai même pas mis.
Tu l'as pas mis, non?
Non, je sors c'est monsieur Eleven.
Mais pourquoi?
Malheureusement, je trouve que la qualification est belle, mais en dehors de ça, quand on compare à Rosberg, elle aurait pu être beaucoup mieux, et qu'en course, malheureusement, il n'a rien pu prouver. Donc,
dans ce cas, passons à la 8ème place. Et là, pour le coup, c'est un pilote que seulement Dino a mis.
Il y a non, points. Tu l'as pas mis, toi, Sidi.
J'ai hésité, mais en même temps.
Sidi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas mis Kimi Räikkönen?
Mais oui, mais t'as vu comment il a cramé ses pneus?
Quand même, Shinji, mais sincèrement.
J'ai hésité.
Shinji, il faut que je te donne des cours de mauvaise foi. Trouve des trucs. Genre, par exemple, je sais pas, à un moment donné, je trouve que quand il a pris le virage, là, c'était beau. Voilà. Trouve des raisons pour le promouvoir. Fais comme moi avec Vettel. Hein.
Le premier.
Il a marqué 308 points. Et en effet, c'est Kimi. Mais, malheureusement, je suis obligé de reconnaître. Il a quand même carbonisé ses pneus.
Ah oui, bah oui. Bon, faut dire aussi que je crois qu'il ravitaille quasiment à la mi-course. Et d'ailleurs, je comprends pas du tout la stratégie de Lotus.
Ouais, moi je pense que c'est plus une erreur de stratégie de son équipe que de Kimi.
Ils ont été très optimistes sur le.
Mais je me demande en fait si au départ ils sont pas partis sur une stratégie à 3 arrêts. Et qu'en fait, au moment du 3e arrêt, ils se sont dit, tout le monde est sur 2 arrêts. Avec 3 arrêts, on aura plus de chances de bien figurer. Et donc, on reste en piste. Parce que, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'au moment donné où il se fait dépasser par Vettel, c'est qu'à ce moment-là, il sent que vraiment les pneus sont pas bons. Mmh. Juste derrière, il se fait dépasser par Button au freinage de l'épingle. Automatiquement, tu te fais dépasser à ce moment-là, t'as la ligne des stands. Moi, je rentre au stand, je mets des pneus tendres. Je vais ressortir 12 ou 13e, c'est pas grave. Mmh. Mais au moins, je vais avoir des pneus les plus tendres, puis je vais pouvoir bombarder en fin de course. Et je me dis, s'ils l'ont pas fait, c'est que leur stratégie de départ, c'était 3 arrêts et qu'ils ont changé de fusil d'épaule en cours de route. Parce que j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent faire. Ils font 25-26 tours, je crois, sur le dernier train de pneus. Voilà, enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme.
Ouais, c'est pas compréhensible. Moi, j'ai pas du tout compris leur stratégie.
Maintenant, ils résistent bien en fin de course. Bon, oui. Après, il s'effondre, mais bon, quand t'as plus de pneus, t'as plus de pneus. C'est aussi à lui de gérer, c'est aussi peut-être à lui d'imposer la stratégie.
Ouais, mais parce que là, c'est lui aussi qui a peut-être un petit manque de connaissances au niveau des pneus.
Mais complètement, moi je pense que finalement, pour lui, le vrai défi, ce sont les Pirelli, parce qu'il a jamais dans sa carrière roulé avec des pneus qui tenaient aussi peu. Et là, il a jamais vraiment testé les limites. D'ailleurs, même beaucoup de pilotes n'ont pas encore testé les limites des pneus Pirelli, et là, il se les est pris en plein dans la figure. Alors qu'il fait un super
défi. Il n'a pas testé les limites. Bon, c'est m'étonne.
Ah, mais en plus, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on se rappelle quand même en Chine, c'est un circuit quand même assez abrasif. Oui. Tout le monde garde en mémoire le fantastique Grand Prix de Chine 2007 avec Hamilton qui s'entête en piste. Je comprends pas qu'on l'ait laissé en piste. Donc, c'est ce qui m'étonne le plus, quoi, c'est qu'on le laisse en piste. Donc, je me dis, si on le laisse en piste, c'est que vraiment il voulait absolument qu'il ne fasse que 2 arrêts.
Bah, ouais, mais quand tu regardes Vettel qui était derrière lui, il était sur cette stratégie-là. Donc,
oui, mais Vettel il rentre un peu plus tard.
Ouais.
Je crois qu'il doit y avoir 4-5 tours. Et entre le moment où Vettel sa chute et le moment où Räikkönen sa chute, il y a 4-5 tours.
Ouais, mais c'est ça, il y a 4-5 tours. Ouais. Et puis comme il y avait une bande de furieux derrière, fait mal.
Ouais. Mais du coup, chez lui, tu aurais quand même pu quand même saluer le début de course. Il prend un super départ.
Ouais, mais pour le coup, je veux dire, ça m'a tellement déçu que.
Oh, mais j'ai dit, vraiment, faut je vais te faire un stage, d'accord. Je vais t'apprendre à être de mauvaise foi, j'ai dit. Tu es trop honnête.
Oh, tu peux parler. Enfin.
Mais non, mais justement, je te le dis, t'es trop honnête.
Alors écoute, on va en parler très vite puisque. Si Räikkönen, donc, en effet, est arrivé 8e avec 308 points, le 7e, il a marqué 328 points, donc là encore un petit écart. Je lui ai donné 6 points, Eric lui a donné 2 points. Et souvenez-vous de ce que vient de dire Dino. puisque ce pilote c'est Alonso.
Oui, mais là, Gigi, là. Non, mais Gigi.
Un.
Non, mais Raikkonen, il a montré des trucs alors qu'Alonso, il a fait une bonne course, mais
pareil. Et faut trouver des trucs, Nino.
Mais oui,
mais... C'est une mauvaise foi. Non, j'ai fait des dinos. Non, il faut reconnaître quand même qu'Alonso, il s'est quand même arraché en qualif quand même pour rentrer en Q3, ce qui n'était pas évident. Et puis après, bon, bah, il fait une course comme il peut, quoi. Et puis bon, il arrive quand même dans les points, quoi.
Non, mais c'est ça aussi. C'est qu'après, il fait une très belle course. Voilà. Il y a une sortie de piste et surtout un retour sur la piste qui n'est pas nécessairement obligatoire. Mais après, c'est aussi le truc, c'est qu'il a rien fait véritablement de plus en course, une prestation. Voilà, quitte à mettre un point, dans ma tête, voilà, je lui aurais mis un ou deux points, mais j'ai dit, vaut mieux mettre un point à Vergne pour l'encourager, même s'il écoute sans doute pas l'émission, plutôt qu'à Alonso, où j'aurais sans doute l'occasion de m'extasier sur son talent, à d'autres occasions, ce que je ne manquerais pas de faire.
T'as encore fait la danse de la pluie?
Je vais la faire
pour Bahreïn, c'est radio.
Ah, ce week-end, s'il pleut à Bahreïn, alors là.
Quelque chose à rajouter sur Alonso l'opiniâtre, ce qui est Eric, ce qu'il a mis. Il a mis, j'ai mis des points Alonso pour son opiniâtreté.
Ah ouais.
Ouais.
Bah oui, non, bah oui, c'est ça, quoi. Il s'arrache pour arriver dans les points, quoi. Et puis il s'arrache aussi en qualif. Parce que comme je dis, quand t'as 12 voitures en 3 dixièmes, faut pas se louper, quoi.
Et là, on le voit bien qu'il s'est battu, enfin, on l'a vu en piste, enfin, il s'est battu avec Maldonado, il s'est battu avec Perez, voilà, on voit qu'il, c'est ça le truc, c'est que, à la limite, il aurait qu'à se battre avec la voiture. Ça irait. Mais là, il est par exemple sur un Grand Prix où il doit non seulement se battre avec la voiture, mais en plus, les écarts étant si peu serrés, il doit se battre avec des Sauber, des Williams, voilà, c'est-à-dire que c'est pas le mec qui se bat comme l'an dernier il faisait, quoi. Il se battait, mais il était cinquième tout le temps. Voilà, il avait 10 secondes de retard, 10 secondes d'avance, il était tout le temps cinquième, donc il se battait seulement avec la voiture. Là, cette année, il se bat, mais il se bat non seulement avec la voiture, mais en plus avec le reste du peloton, donc c'est un peu plus difficile à faire.
Attention, Dino, hein, c'est des écarts si serrés, parce que si peu serrés, ça voudrait dire qu'il y a de la distance entre les voitures.
Oui, oh, c'est bon, Shinji, c'est bon.
Ah. Un.
Bah, il nous fera du Massa Hamilton. Voilà.
Ah, j'ai même été étonné qu'à un moment donné, il n'en vire pas. Moi, je peux dire que j'aurais été Alonso, Maldonado et Perez.
C'est vrai.
Avec un droit, t'as quoi à gauche.
En même temps, la Ferrari, elle ressemble déjà à rien, donc si tu la cabosses.
C'est des idées aux ingénieurs italiens.
C'est vrai.
Regarde Massa, cabossé, il est plus beau encore.
À la sixième place, il a marqué 470 points. C'est un autre double champion, c'est Vettel.
Ouais. Je crois que je vais laisser ce blanc.
Ça résume un peu tout le Grand Prix, même si finalement il s'en sort
mais
bien
quel,
son résultat.
Quel départ foireux. Déjà le mec qui est 11e. Bon, tu dis bon 11e, il retire la dizaine, il s'imagine en pôle. Mais là, je sais pas, c'est peut-être le fait d'être pour la première fois très loin des pneus, je crois que ça faisait 43 Grand Prix, il était très loin des feux. Donc peut-être qu'il n'a pas bien vu les feux, il s'est dit tiens, il y a des points rouges là-bas. Avant il partait, c'était lui qui décidait, quoi. Mais là il se disait voilà, bon, là je vois pas les feux. Alors, je vais partir quand je vais regarder la voiture de devant. Il a fait un départ foireux. Mais après, il se récupère bien en course, voilà, grâce à la stratégie, grâce. Puis il lâche rien, on le voit à la fin quand il se fait dépasser, il essaye. Voilà, le mec, il a en fin de vie des pneus. C'est pas grave, allez, je vais essayer de garder ma place sur Button.
Non, et puis ouais, c'est effectivement la belle stratégie de Red Bull qui lui permet de revenir à la cinquième place, quoi.
Puis il en était apparemment très content après la course de sa cinquième place.
Ouais, enfin j'ai eu d'autres choses où, enfin c'est devant les, une fois qu'il était descendu de sa voiture, qui était content, mais apparemment il aurait engueulé ses ingénieurs en disant que qu'au niveau de la vitesse de pointe, c'était nul.
Ah bah ça, dès le début du Grand Prix, on a eu une radio où il disait qu'il n'avait pas de vitesse sans ligne droite.
Voilà. Ça, en même temps, ouais, ça c'est lui qui fait les réglages, donc il ne peut pas s'en prendre à ses ingénieurs. Hein.
Ouais, non, mais il l'a redit après, dans son tour de décélération, il paraît qu'il l'a redit en disant ouais, qu'ils étaient nulle part en ligne droite, quoi.
Mais j'avoue, moi, pour le moment, Sébastien, il me déçoit vachement, à la fois dans les performances. Voilà, parce que je pense quand même qu'il vaut mieux que de se battre avec sa voiture. La Red Bull, elle est pas au top, mais elle, c'est pas non plus une trapanelle, donc voilà. Et puis même dans le comportement, enfin, je trouve dans le comportement, voilà,
bah, surtout
je trouve un peu moins agréable. Alors après, ça se comprend, mais
il est un peu, je pense qu'il est un peu perdu, ouais, qu'il comprend pas trop, quoi, parce que c'est vrai que vu la saison qu'il a fait l'année dernière, puis se retrouver à batailler un peu vers le milieu du peloton, ça ne doit pas être évident pour lui, surtout que je pense que c'est quand même une des premières fois qu'il se retrouve dans une telle situation, quoi.
Ce qui est étonnant, c'est que l'an dernier, justement, souvenez-vous, il y a 2 ans, il avait été friable. Et on s'était dit l'an dernier que justement, il avait atteint cette maturité et que c'était justement en partie ça qui avait fait sa saison l'an dernier. C'est-à-dire que de lui-même, déjà, il s'était solidifié moralement et mentalement. Et donc on se disait bon, à partir du moment où, entre guillemets, on grandit, bah après voilà, ça c'est le même si ça doit aller moins bien sportivement, mentalement, voilà, ça reste un doux champion du monde. Et là
c'est
vrai
qu'on a l'impression, et là on a disait, voilà, même Rose Brown disait on attend de voir le jour où il aura une moins bonne voiture.
Ben voilà, ça arrive.
Et là il l'a, et pour le moment le test il est pas en train de le passer, parce que pour le moment il est même en train, je dirais même, de mettre en péril son équipe. Parce qu'il est en train de les forcer là sur le dernier Grand Prix, et je pense qu'ils vont pas choisir avant le Mugello, parce que
non, il est en train de donner raison à ses détracteurs.
Voilà, il est en train même de mettre son équipe dans la merde, parce que du coup ils sont obligés de travailler sur 2 programmes différents. Voilà, la Red Bull sait pas trop choisir, parce que d'un côté ils ont quand même leur double champion du monde qui est quand même à l'origine privilégié, puisque c'est quand même lui qui a le palmarès. Donc ils ont leur double champion du monde qui se sent mieux avec une autre solution, mais globalement apparemment tout le monde dans l'équipe pense que la solution qui a été choisie.
Apparemment, il a dit qu'il allait passer à la nouvelle version. Hein, parce que...
Mais il faudra voir à Bahreïn. Moi, je pense que peut-être qu'à Bahreïn, ils vont rester sur cette stratégie-là, de mettre leurs jeux dans des paniers différents, parce que bon, c'est pas trop gênant de le faire sur 1 ou 2 courses, et qu'ils vont attendre le Mugello pour voir un peu avec les nouveautés qu'il y aura au Mugello, pour vraiment prendre une opinion définitive.
Ouais, de toute façon, je pense que l'opinion elle est déjà faite. Hein. De toute façon, c'est je pense que de toute façon New Way va insister là-dessus. C'est avec les derniers échappements qu'il a dessinés. Hein. Ça, c'est clair.
Oui, mais en même temps, tu peux pas non plus faire sans l'avis de ton pilote champion du monde. Enfin, voilà, c'est aussi tant que le pilote se trouve pas en confiance avec son matériel, ce qui est le cas aujourd'hui de Sébastien. Voilà, c'est difficile de lui dire, bah écoute, t'es pas en confiance, tu fais avec.
Mais ça, mais je vois mal quand même New Way revenir en arrière. Tu vois, je veux dire,
oui.
C'est pas où il est le
parce
du personnage.
Que, dès le départ du week-end, hein, on nous a dit qu'il y avait les 2 versions, et dès samedi, New Way a dit que oui, normalement, c'est la nouvelle hein, qui doit être plus rapide. Hein, donc, faut qu'il s'adapte à la nouvelle.
Plus rapide. Et elle est plus rapide, puisque tu regardes sur toutes les séances et tout ça, Vettel, il est toujours à 3/10, quoi, hein, derrière Weber. Hein.
Quelque chose à rajouter sur Vettel?
Vettel, Sébastien!
Ah, mais, de toute façon, moi, je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Je me rappelle de Senna, tu sais, qui a mis du temps aussi à mûrir, Senna. Je me rappelle que combien de courses il a perdu en voulant aller trop vite, en percutant des retardataires, en faisant des erreurs.
On se rappelle tous du Grand Prix de Monaco où voilà, il met une pile à Prost et que finalement il finit dans le rail.
Voilà,
quoi,
donc, parce que Prost s'amusait à faire des records du tour, il voulait absolument l'avoir et puis il s'est mis dans le rail, quoi. Je voulais venir là-dessus justement sur ce Grand Prix de Monaco, et c'est là où je crois même que Senna n'était même pas repassé par les stands, il était directement allé chez lui parce qu'il avait un appartement à Monaco après ce Grand Prix-là. Il avait fait le vide. Et à l'époque, on avait tous dit que de toute façon, ça y est, c'était bon. Prost était champion du monde à la fin du Grand Prix de Monaco, parce qu'il avait déjà gagné 3 Grands Prix. Et puis finalement, non, il s'était remis en question, le Senna. Et puis à la fin de l'année, il était champion du monde, quoi.
C'est là aussi on peut demander, est-ce que de la part de Red Bull, c'est lui dire d'accord, on te met l'ancienne version, c'est pas aussi un moyen de lui faire comprendre, voilà, t'as l'ancienne version, t'as toujours fait moins bien que Weber.
Voilà,
ouais.
Voilà.
Maintenant nous on t'a donné ta chance, tu nous as rien prouvé, maintenant voilà, laisse-nous travailler, on va travailler avec toi pour te rendre plus confortable. Voilà, est-ce que c'est pas un truc comme ça? Moi ce que je trouve, à la limite, je suis content qu'il ait des difficultés. C'est-à-dire que je pense que s'il avait encore fait, ça aurait pas été intéressant que même avec une bonne voiture, il s'en sorte à des merveilles et qu'il fasse des victoires. Voilà, elle est où la marge de progression? C'est un peu comme Hamilton. Je pense que indirectement, là, ce qui fait la force d'Hamilton cette année, le mec, il arrive, il dit, je suis troisième, bah c'est pas grave. Je me rappelle en 2007, j'avais mis 6 ou 7 courses avant de gagner ma première course. Voilà. Si cette année je fais pareil, c'est pas grave, ce qui compte c'est d'être là tout le temps, de marquer des gros points, alors que l'an dernier c'était pas du tout, enfin tout ça, il le tenait pas. Donc peut-être aussi que pour Vettel c'est aussi un passage obligé que de se gaufrer, de connaître des difficultés pour peut-être mieux se relever à l'avenir.
Allez, sur ces mots on va passer à la 5e place.
Ah.
Elle va faire plaisir à beaucoup de monde, je pense.
Allons
déjà parce que
de la patrie le jour. Il faut que je fasse, je dis. Est arrivé contre nous.
Il n'a pas encore gagné.
Tyrannie, l'étendard.
Il a fini une course.
Élevé.
Il a fini. Oh, c'est vrai.
Il a marqué 509 points. En effet, c'est Romain Grosjean qui a fini une course cette année.
C'est dommage parce que Romain, il avait quand même, il avait la chance au départ. Il avait Vettel et Alonso.
Oui.
Il aurait pu faire un beau strike.
Non mais c'est vrai qu'il fait vraiment une
belle course. Par rapport à la stratégie qui n'était pas spécialement différente de celle de Raikkonen, lui, ses pneus ont tenu.
Bah, c'est peut-être là aussi où on voit la différence Raikkonen-Grosjean peut-être.
Voilà.
Non mais voilà. Bon après c'est pareil, c'est-à-dire que il y a aussi le fait que Raikkonen il a quand même dû défendre sa position pendant une partie de la course, donc ce qui fait que t'es voilà comme quand t'as une Mercedes, quand t'as Button qui est derrière toi avec Hamilton et que t'as tout le peloton, t'en fais peut-être un petit peu plus. Là où Grosjean j'ai envie de dire il devait se contenter entre guillemets de suivre, donc c'est y a peut-être ça aussi qui joue, mais non il a, c'est surtout le contraste moi qui m'a plu avec Raikkonen quoi. C'est vraiment, on a l'impression que il a enfin maîtrisé sa course, il a été calme, il s'est pas précipité. Ouais. Il y a un moment où j'ai senti le vieux Grosjean ressortir, c'est sur Maldonado je crois, où quand il part à la faute et qu'après il retombe à côté de Maldonado et puis là oh mon dieu, il va se cartonner avec Maldonado, faut qu'il lâche le coup quoi. Un petit peu trop tendance à insister, mais bon, d'autres l'ont fait ce week-end, l'erreur, donc on va pas le lui reprocher, il a fait vraiment une super course.
Non, puis non, c'était sympa le duel Maldonado-Grosjean.
C'était splendide, sincèrement, j'ai adoré. Les petites étincelles et tout, voilà, on s'est retrouvés. Les petites étincelles, ça évoque les années 80-90. Ça évoque.
Sérieux.
Ça évoque, moi, je me rappelle le Grand Prix d'Australie 86, je crois, à Adélaïde,
ouais,
avec
ouais.
Un duel en ligne droite avec Mansell, où t'as les petites étincelles et tout. Voilà, ça rajoute à la magie de la F1, quoi. C'est. Voilà.
À quand la partie A4, Kimi, Camille, Romain et Pastor?
Alors ça va se finir généralement dans le bac à gravier.
Non, alors, par contre, ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est assez étrange parce que ce que je remarque chez Grosjean, c'est que finalement, quand il prend pas trop le melon, tout de suite, il fait des résultats, quoi. Alors que sur les deux premiers Grands Prix, c'était un peu en disant attention, je vais faire des exploits, des machins et tout, et puis il n'est pas allé bien loin. Tandis que là, il s'est peut-être remis un peu en cause, ouais, et puis finalement ça a payé, quoi.
Ouais. Bah, on l'a peut-être aussi un peu remis en cause. Enfin,
je pense.
Ah, voilà, quoi, quand même, faire des courses de 5 tours.
On peut quand même citer une news qui est sortie juste après le Grand Prix, comme quoi Jérôme D'Ambrosio va participer aux essais du Mugello. Alors Romain Grosjean est sans doute pas menacé.
Non, mais.
Mais quand même, voilà, quand on dit, écoute, en fait, tu vas laisser ton baquet une journée à D'Ambrosio, c'est quand même, ah merde.
Faut mieux être.
Ça veut dire que.
Voilà.
Même dans ses déclarations après la course, tu sens qu'il a. Il est plus réfléchi, quoi, contrairement à l'Australie où il disait ouais on va se battre pour, enfin l'objectif c'est d'être champion du monde machin et tout, bon t'arrives pas en F1, tu ne viens pas champion du monde comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas.
Je pense plutôt qu'il parlait de l'équipe.
Ouais, de... non, ou. Non, en conférence de presse, le truc, il disait que l'objectif.
Ah oui, enfin, oui, 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 oui. Venir, ah, mais il ne le disait pas pour cette année, il le disait pour. Ouais, ouais, mais
enfin, bon. Le gars, bon, il signe une troisième place. Bon, bon d'accord, c'est super, mais bon, tu dis pas ça tout de suite, quoi.
Je dire, moi, je pense surtout que ce qui l'a aidé ce week-end, c'est qu'il est parti dixième.
Ouais, non, mais justement, bon.
Il est parti dixième, où il n'y avait pas, sur les deux premières courses, il part quand même dans un peloton, voilà, il y a quand même six champions du monde sur la grille. Là, il part, un peu derrière.
En même temps, s'il veut progresser, il faut qu'il s'habitue à ça,
hein. Non, mais voilà, non, mais c'est pareil, c'est, justement, il faut qu'il s'habitue, donc, les deux premières courses, il se retrouve quand même, là, la première course, il se retrouve, à côté de Schumacher, devant et derrière des champions du monde, donc c'est, faut le gérer. Là, il était peut-être un peu plus cool en se disant, bon, voilà, j'ai des fous furieux derrière. D'accord, mais devant j'ai Perez, j'ai Kobayashi, il a Weber, donc voilà, ça lui permet en tout cas sur les 2-3 premiers tours d'être peut-être un peu plus zen.
Ouais.
C'est actuellement le pilote qui a parcouru le moins de kilomètres en course.
Ouais. cette je saison. Pense, oui.
Ouais. Ouais. Attends, il est derrière Schumi.
Ouais, oui. Je pense que Schumi, dans quelques grands prix, va le rattraper.
Oui, il est à 327 km et Schumi, il est à 429. Voilà. Ouais.
327 bornes.
Voilà.
C'est le truc de dingue. 327 bornes. C'est quoi? C'est 15 km de plus qu'une distance de course.
Oui, voilà. On va passer à la quatrième place avec un abonné à la quatrième place. Parce que depuis le début de saison, il ne fait que des quatrièmes places.
Ouais, ça va, parce que dans le vrai, il fait que des troisièmes places.
Ah non?
Ah non, non,
non, non, non, non, en vrai, voilà,
c'est moi qui ai pseudo, j'ai regardé mon classement, c'est pour ça. Parce que moi, il y a un pilote que j'ai mis quatrième, c'est pour ça.
Non, non, je parle du pilote qui vraiment, dans la réalité, est abonné à la quatrième place cette année, c'est Mark Webber.
Bah ouais.
Bah, oh, il est bien placé.
Oui, Mark Webber qui a marqué 614 points.
Oh. Je le trouve un peu surnoté.
Oh. Bon, il finit quatrième, il est classé quatrième, c'est bon, c'est pas.
Oui, mais c'est un peu surnoté, Shinji.
Mais non, c'est à sa place, normal.
Ah, c'est un peu surnoté, Shinji, regarde bien ton classement. Moi, je me disais, bon, il va me dire quelque chose quand même. Il va me dire
pourquoi tu l'avoues pas toi-même, hein, la vérité.
Non, t'as pas pensé à mettre un coefficient sur ton classement?
Il l'a mis deuxième.
Il l'a mis deuxième. Ouais, non, mais je lui propose de lui mettre un coefficient sur son classement à lui pour faire remonter ses.
Ah bah non, mais ça c'était le cas avant. Maintenant on est paritaire.
Oui.
T'as un tort.
Tu l'as mis deuxième.
Voilà. Ah, je pensais que Shinji ça te ferait réagir. Je pensais que tu dirais. Bah, Shinji,
oui, mais je pensais que t'allais le dire toi-même. J'allais dire oui, non, mais il méritait. Il aurait mérité mieux. Ah.
Eh ben non, voilà. Non, non, moi, surtout, moi, je l'ai mis deuxième, en fait, pour la raison toute simple, c'est la stratégie. C'est un pilote, quand même, il a le don. Alors, déjà, Red Bull est une écurie, je trouve, qui tente beaucoup de choses en stratégie. Et là, je trouve que, à chaque fois, Weber, il nous surprend. Et à chaque fois, t'as l'impression vraiment qu'il s'est adapté, aux situations de course, et qu'il a fait sa course comme ça, et c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup chez lui. Alors après, ça n'a pas été non plus extraordinaire, il a fait quelques fautes, mais voilà, dans l'ensemble, vraiment une très belle course.
Eric?
Ouais. Non, mais ouais, non, je suis un peu d'accord.
Ouais, je suis d'accord.
Une belle course, une bonne stratégie, belle course.
C'est tout?
Troisième alors.
Non, une belle figure.
Bah, dans ce cas-là, passons au podium. Passons à la troisième place. Une place, un pilote que j'ai mis troisième. Que Dino, cette fois-ci, tu n'as mis que quatrième.
Oui.
Mais que Eric a mis deuxième, lui. Hein. Tu vois, comme lui, tu vois, c'est logique encore. C'est pas comme toi.
Oh.
Il a marqué. Alors, combien il a marqué? Il a marqué 831 points. Là, quand même, les écarts commencent à être importants. Hein. C'est Lewis Hamilton.
Oui, ben, quoi.
Bah, pour une fois, il fait pas la pole déjà.
Oui, il va falloir quand même rappeler que il a changé de boîte, donc.
Oui, non, mais même sans la boîte, quoi. Je veux dire.
Oui, non, mais voilà. Non, mais je fais un devoir d'information, Shinji.
Voilà.
Ouais, bon, il fait le deuxième temps en qualif, quand même. Bon.
Oui, voilà.
Et puis en course, ouais, bon, il a cette pénalité, bon, qui le fait reculer une 5 places, et puis bon, bah, il fait une belle course. Hein, il finit troisième, mais j'ai. Ouais, mais j'ai trouvé, bon, enfin, on verra avec Button aussi. Après, j'ai trouvé peut-être un tout petit peu attentiste. Après, j'ai trouvé dans les 15 derniers tours.
Présomptueux. Hein? Je les ai trouvés, les deux pilotes McLaren, je les ai trouvés limite présomptueux. Alors après, c'est vrai que c'est la même stratégie que...
Quand ils étaient derrière Vettel et Raikkonen, je les ai trouvés un peu attentistes.
Bah, sur la fin, c'est un peu plus difficile de dépasser, on a vu avec les Marbles et tout. Après, je pense qu'effectivement, ils ont peut-être attendu que les pneus se dégradent un peu plus pour pouvoir vraiment prendre l'avantage. Parce qu'ils savaient qu'avec des pneus qui tenaient encore la route, même avec la vitesse de pointe, ils auraient eu du mal à dépasser vraiment.
Non, bah sinon, ouais, bah Hamilton, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que là, il remarque encore des gros points.
J'ai vu que tu avais noté sa belle remontée.
Moi, j'avais mis ça, moi.
Oui, dans le mail, tu avais mis Lewis Hamilton pour ses qualifs et sa belle remontée.
Bah ouais, parce qu'ils partent d'assez loin, les premiers tours. Ouais, il est septième, le premier tour. Il est pas mal, son premier tour. Donc, quand il tente l'expérience.
Ah oui, non, mais là, il y en a un, je vais donner des claques, c'est à Malbranque. Parce que, alors, non, mais sincèrement, au deuxième tour, il repasse le classement en tête, et il fait, je sais plus qui c'était, Rosberg, Button, Raikkonen, je sais plus qui il y avait. Et t'as donc Button qui a gagné deux places à l'arrivée, il le parle sans rien dire, et après il arrive sur Hamilton, il dit « Oh là là, quel super départ d'Hamilton !» Bah, il a gagné deux places comme Button. Button aussi fait un super départ. Moi, c'est pour ça que j'ai laissé Button devant, c'est parce que même si Hamilton a fait des beaux dépassements, etc., pour moi, il a jamais semblé véritablement en mesure d'être devant Button.
Ah non, ça c'est sûr. Ça.
Voilà, donc sur la course, je me suis dit, voilà, c'est... Pour moi, il n'aurait pas pu être devant Button, c'était pas possible. Donc j'ai jugé un peu sur ça. Et après, j'ai trouvé un peu les. Alors c'est vrai que c'est la stratégie qui leur a permis de gagner l'an dernier, la stratégie à trois arrêts. Mais je les ai trouvées peut-être un peu présomptueuses. Se sont peut-être senties un petit peu trop fortes en partant sur cette stratégie à trois arrêts, sans doute capitalisant sur le fait que les Mercedes allaient pas tenir.
Ouais,
mais c'était oublié qu'il y avait quand même Kimi Raikkonen devant, qu'il y avait quand même la Sauber de Kobayashi devant, qu'il y avait aussi Weber qui était intercalé. Donc elles n'étaient pas forcément destinées à se battre pour la victoire.
Il y avait du monde. En tout cas, ça aurait été disputé, quoi. Elles n'auraient pas été toutes seules.
Donc soit elles ont été trop agressives, soit au contraire elles ont peut-être été un peu trop sûres d'elles en se disant voilà, bon, on fera un arrêt de plus, mais on arrivera à compenser en piste. Ce qui n'était pas nécessairement faux, hein, parce qu'on voit que sans le problème de Button au stand, il ressort devant Raikkonen, donc après peut-être qu'il peut faire mieux sur la course. Mais voilà, la stratégie de McLaren, sincèrement, je l'ai pas comprise.
Non, ils se sont un peu plantés, je pense, peut-être pas trop fort, mais enfin bon, j'étais parti sur trois arrêts, ce qui n'était pas mauvais, comme tu dis, comme pour Button, parce qu'en principe, il devait repartir devant le groupe, quoi. Mais c'est vrai que bon, bah, Hamilton, il part quand même un peu plus loin derrière, donc il se retrouve forcément un peu dans le trafic, et puis bon, bah, il arrive quand même à finir troisième, quoi, ce qui est quand même pas mal, quoi.
Mais c'est ce qu'ont dit toutes les équipes, ils ont dit, l'intérêt, le risque, en fait, d'une stratégie à trois arrêts, c'est que la position en piste est vraiment très importante. Là, quoi qu'il arrive, comme il y a des voitures en deux arrêts, tu vas tomber sur des voitures qui sont plus lentes, et donc forcément, que tu vas pouvoir dépasser, mais que c'est pas non plus une formalité de les dépasser. Donc, on a vu beaucoup de pilotes, le nombre de fois où, je crois que c'est Marc Weber qui dit à un moment donné, je voyais 14-15e sur le panneau, et le mec, il s'est quand même battu à la fin. Mais, faut quand même, moralement et tout, c'est quand même difficile, quand t'es pas devant, d'arriver effectivement à avoir ce rythme-là.
Justement, évoquons l'autre pilote McLaren, Jenson Button, qui a fini deuxième avec 1084 points.
Ouais.
Donc plus précisément, là, on a beaucoup évoqué McLaren sur la course de Button.
Ouais. Ouais, moi, je dis, bon, il y a deux trucs sur Button. Bon, il y a cet arrêt au stand qui ruine un peu sa course. Parce que
ouais, mais il aurait,
les 6 secondes qu'il perd...
Je pense qu'il aurait quand même pas gagné sans ça.
Je suis pas si certain, parce que...
Il aurait rendu la tâche de Rosberg moins facile,
Une fois qu'il est passé devant le paquet, il mettait quand même une demi-seconde de tour à Rosberg. Hein.
Parce que Rosberg, vers la fin, gère.
Oui.
C'est ça aussi, hein, c'est vers la fin, Rosberg, il gère.
Mais justement, je pense que... moi, je pense que le Button, s'il avait été reparti devant, il aurait pu... Ça aurait été chaud pour Rosberg. Ça aurait été chaud pour Rosberg, je pense.
Bah, je pense que Button, la seule solution pour qu'il gagne, c'est qu'il mette le doute dans la tête de Rosberg, justement en ressortant devant, et que Rosberg se mette à faire un arrêt. Moi, sincèrement, je pense que la victoire était quand même difficile pour les McLaren ce week-end.
Peut-être difficile, mais enfin, tu sais, quand t'as la pression derrière et tout, peut-être que Rosberg, il aurait peut-être un peu moins géré.
Mais c'est ça, voilà, oui. C'est pour ça que je dis, c'est, sauf, voilà, il aurait rendu la tâche plus difficile, mais maintenant, je pense que même sans son problème au stand, ça aurait pas rendu la chose inexorable pour Rosberg.
C'est sûr, ouais. Mais bon, ça aurait pu faire un final un peu plus, entre Rosberg et Button.
Donc, le final a...
Oui, non, si, non, après, ce que je voulais dire sur Button, c'est là où je reviens. Par contre, lui, j'ai trouvé quand même assez attentiste après, avec ses pneus neufs dans le trafic, quoi. Et je pense qu'il a attendu en se disant, Rosberg va faire un troisième arrêt.
Oui, mais après, je pense sincèrement que à 20 tours de l'arrivée, personne ne croit. Enfin, voilà, moi, j'étais devant ma télé, je croyais pas une seule seconde que Rosberg il allait s'arrêter, quoi, parce que tu t'arrêtes seulement quand t'es en tête de ton premier peut-être potentiel victoire en Grand Prix. Tu t'arrêtes vraiment si t'as besoin de t'arrêter. Et je pense qu'il se serait arrêté que si vraiment il avait eu un problème avec les pneus. Là, sincèrement, je pense que vraiment s'ils ont été prudents, c'est d'abord parce qu'on se rappelle l'an dernier, la course, le début de course du Grand Prix de Chine a été particulièrement chiant parce qu'avec le DRS, tout le monde se suivait et qu'il y avait très vite des marbles et qu'on n'arrivait pas à se dépasser. Donc du coup, ça faisait le petit train-train parce que tout le monde se suit et qu'on peut pas dépasser parce que ça compense pas. Donc je pense que c'est surtout ça qu'a joué. Alors après, peut-être qu'effectivement, ils ont joué un peu la sécurité.
Ouais, mais enfin bon, moi c'est là un peu le ressenti que j'ai eu, quoi. J'ai trouvé un peu attentiste, quoi, sur le. Voilà.
Messieurs, on va passer au premier du classement, le vainqueur du Grand Prix.
Oui.
1500 points, alors tous les trois on l'a mis premier. J'ai même mis sur Twitter, hein, j'ai dit exclusif, on va parler de Nico Rosberg dans le SAV.
Oui. Alors qu'il a fait une course, une vraie
finalement,
course à Nico Rosberg.
Il a fait une course à la Rosberg.
Voilà, alors là on a eu une vraie course à Nico Rosberg, c'est-à-dire un bon résultat, mais on le boit très peu de la course.
Mais là il a un super bon résultat.
Ouais.
Voilà.
Et d'ailleurs je me demande, hein, vu qu'il fait 1500 points, je me demande si en fait il a pas fait l'unanimité.
C'est pas impossible.
Alors ça on peut pas le vérifier, mais sincèrement j'imagine mal quelqu'un ne pas avoir mis Rosberg pour sa première victoire. Donc
tu
je me demande si.
Non, ça a peut-être mis Alonso, non.
Non.
Bah, déjà, bon, on l'a évoqué, il y a cette qualif parfaite. Hein, c'est déjà une bonne partie du boulot. Ouais. Et puis, bah, il y a ces pneus. Alors, la question, hein, pour Mercedes, c'est de savoir est-ce que ils ont vraiment réussi à trouver le truc, hein, pour éviter d'user leurs pneus, ou est-ce que c'est pas aussi la température qui faisait.
Ouais.
Hein, on verra tout de suite à Bahreïn. Hein. Bahreïn, il fera beaucoup plus chaud.
Ouais.
Honnêtement, moi, je pense que c'est la température de piste qui a beaucoup joué.
Moi, je pense que la température, il y a aussi les réglages. C'est-à-dire que ils ont enfin apparemment fait ce que permet de faire leur déduct, c'est-à-dire que leur déduct, il leur fournit un avantage supplémentaire quand ils utilisent le DRS. L'avantage, c'est que plus tu peux avoir une vitesse de pointe élevée, plus tu peux te permettre de mettre de l'appui. Par conséquent, dans les virages lents. Donc, ça, c'est un truc qui, avec l'apparition du DRS, influence tout le monde. C'est-à-dire que toutes les équipes aujourd'hui, je crois que c'est Sauber qui le dit dans la présentation du Bahreïn, ils disent, bon, là, au Bahreïn, on pourra mettre un peu plus d'appui que ce qu'on faisait auparavant, parce que maintenant, on a le DRS. Avant, on l'avait pas, donc pour les lignes droites, fallait mettre un peu moins d'appui. Mais là, vu qu'on a le DRS, peut-être qu'on pourra mettre un peu plus d'appui pour bien négocier les virages. Et là, c'est vrai qu'avec deux secteurs très roulants et un secteur... avec une longue ligne droite, fallait trouver le bon compromis, et c'est vrai que ils ont enfin tenté vraiment le vrai intérêt du DRS duct, c'est de permettre d'avoir la même vitesse de pointe que les autres, mais de mettre plus d'appui dans les courbes. C'est là où tu fais quand même la plus grande différence, sauf en course, où là en course, oui. Ça t'expose à plus de choses.
Vivement Monza pour Mercedes.
Ouais.
Oui.
Quoi qu'en course, le fait d'avoir ce réglage de DRS, oui, ne change pas grand chose parce
bah
que,
oui, parce que c'est
que tu utilises pas beaucoup, ouais.
Voilà, le DRS, une fois que t'es devant, tu t'en sers pas, donc c'est
d'ailleurs,
moins important.
Là encore, Malbon qui a failli m'arracher les cheveux au début de course, fait oui, mais vous savez, Mercedes, ils ont le DRS duct et tout ça. Mais patate, ils sont premiers, deuxièmes, ils vont jamais l'utiliser.
Voilà.
Mais si, en rattrapant les retardataires.
Oui.
Je sais pas. Non, quand tu rattrapes, tu as le droit.
Oui, tu peux.
Hein.
Et si c'est quand t'as une voiture qui a une seconde devant toi.
Voilà, tant que t'as une voiture à une seconde devant toi, tu peux l'utiliser.
Même si, d'accord.
Bon, faut avouer que sincèrement, ils en ont pas besoin pour dépasser une HRT. Même s'il faut souligner quand même que ce week-end, les écarts, c'est HRT qui s'en est félicité, ils étaient à 104%, je crois, en Q1. Voilà, donc ils étaient très contents de dire on était à 104%. Et même en course, je crois que il y a 16 ou 17 voitures dans le tour, que Kovalainen n'est pas dans le tour, mais parce qu'il lui arrive des pépins, il n'avait pas une course facile de Kovalainen. Je crois qu'il doit être.
Il est à 2 tours.
Voilà, Kartikeyan est 2 tours, et les autres sont à 1 tour, donc
voilà.
Il y a quand même, ça a quand même été très long avant de rattraper les retardataires. Donc ça fait aussi plaisir de voir que ça se resserre un peu, voilà. Même par rapport à derrière.
C'est dommage pour Vettel, il peut plus.
Oui. Donc Rosberg, 111 Grand Prix, enfin.
Une victoire. Oui.
Il était pas. Il a failli en avoir une, on se souvient.
Singapour 2008.
Ce fameux Grand Prix.
Ce Grand Prix qui aurait pu changer la face de nombreux pilotes. Rosberg, premier vainqueur. Massa qui aurait été champion.
Ah, Flavio. Vous pensez que. Parce que bon, est-ce que ça risque d'être isolé ou est-ce que. Ça va, comme on dit, débloquer le compteur.
Non, moi, je pense que ça risque de débloquer le compteur. Après, comme on dit, bon, faut voir après au niveau des pneumatiques, parce que moi, je pense que c'est vraiment une question de température de piste. D'ailleurs, même Rose Brown, je crois, l'a dit que c'était idéal pour dans la fenêtre d'exploitation pour les pneus, quoi. Mais après, je pense que comme semaine prochaine, je pense qu'ils vont encore dégrader rapidement leurs pneus.
Mais Mercedes après, le dit.
Ça va être un peu plus dur.
Mais Mercedes le dit. Voilà, on a gagné une course, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va en gagner plusieurs dans la saison.
Oui.
Voilà, c'est déjà une course de gagner. C'est bien. Ça va retirer un peu de pression parce qu'il y avait des bruits. Enfin, il y a une séance du conseil d'administration apparemment qui a été applaudie.
Oui. Mercedes. Ça tombe bien en plus. Oui, c'est vrai.
Voilà, donc ça tombe vachement bien. Ça tombe peut-être même très bien. Peut-être même trop bien. Hein. Après tout, hein. Il y en a bien qui l'ont fait au moment de Silverstone l'année dernière, à propos de Ferrari. Bon, si je vais me permettre d'être théorie de complot, est-ce que par hasard, on n'a pas laissé gagner Mercedes en leur donnant des pneus Pirelli plus solides que les autres, ou peut-être même des Bridgestone maquillés en Pirelli? Laisse-moi, je te dis, parce que l'année dernière, avec Ferrari, on a été traité dans la boue, on a été traîné dans la boue, on a fait les pires théories de complot, je vais faire pareil. Est-ce qu'on n'a pas cherché à faciliter Mercedes pour s'assurer qu'il resterait? Moi, je dis, sincèrement, Sherlock Holmes, il faut enquêter.
Non, mais
il y a un mystère. Non, je dis.
Dino, il faut qu'ils en gagnent d'autres. Tu sais pourquoi?
Ah, mais. Pourquoi?
Parce qu'ils peuvent pas laisser ce trophée tout seul chez eux.
Non.
Hein, moi, j'ai aussi vu la remarque sur Twitter et j'ai envie de dire, c'est vrai. Hein, cette espèce de fait-tout là sur pied.
Mais je dis, tant que c'est pas un trophée sans tendeur, on dit rien.
Oui, non mais on est d'accord que le trophée Santander, c'est le degré zéro du trophée. Hein,
voilà.
Hein. Mais le fait ouvert sur pâte, voilà, je suis sûr qu'on peut faire un très bon bœuf bourguignon dedans, mais non.
Une salade de concombre.
Ah bah c'est vert en plus, donc c'était parfait.
Ouais. Hein, voilà. Il pensait à Vettel.
Mais non. Alors je sais, vert, c'est le jade, c'est la Chine. Non, les gars, offrez plutôt une belle porcelaine, un truc comme ça. Pas ce truc.
Non, pas la porcelaine, c'est ce qu'ils font en Hongrie. Arrête, Sylvie. Tu les as vu les trophées en Hongrie?
C'est de la porcelaine.
Mais oui, mais même là, c'est bien, c'était beau, moi je trouve, c'est original.
Ah, non.
On est bien d'accord, Sylvie. On est bien d'accord que seul sur la cheminée, ça fait dégueu. Mais entouré de plein d'autres trucs, ça peut être sympatoche.
Ouais, d'où la raison, il faut qu'ils en aient d'autres. On est bien
d'accord.
Voilà. Alors, sinon, j'aurais une question. Alors, c'est vrai qu'on est qu'au troisième Grand Prix, hein. Mais bon, la Chine, la Malaisie, ça commence déjà à être des, bon, l'Australie, c'est un peu particulier, mais là, on a eu deux circuits, même si on n'a pas eu des conditions optimales, hein, qu'on y pense, hein, que ce soit cette semaine ou même il y a 3 semaines. 3 courses, 3 vainqueurs.
Toi, tu vas nous demander si Rosberg va pas faire comme son père en 82, être champion l'année où il a remporté sa première victoire, non?
Jusque là, mais après 3 courses, sachant qu'on peut imaginer qu'Hamilton peut gagner des courses, que pourquoi pas Schumacher, que pourquoi pas les Lotus, que pourquoi pas les Sauber, voire même pourquoi pas Ferrari, on sait jamais.
C'est déjà fait, j'ai dit, nous c'est bon.
Vu les écarts qu'on a vus, vu le paquet de bagnoles qui, on a l'impression, peuvent avoir peut-être leur chance de gagner des victoires.
Comme Williams, hein, sur un malentendu.
Voilà, tout à fait. Pourquoi
à Monaco, où les Williams sont toujours bonnes, ou même en Hongrie, où il peut y avoir des courses un peu spectaculaires et pas beaucoup de pilotes à l'arrivée, qui sait.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai que depuis le début de saison, quasiment, à part Toro Rosso et Force India, dont on dit quasiment rien parce qu'ils font pas grand-chose, on n'arrête pas de dire quasiment du bien de tout le monde cette année. Est-ce que vous pensez pas que, alors ça peut peut-être changer, peut-être pas la semaine prochaine à Bahreïn, mais après notamment les essais, donc après le retour en Europe, est-ce que vous pensez donc on va avoir peut-être une régularisation et puis bon ça va être comme d'habitude avec 2-3 pilotes qui vont jouer le titre, ou peut-être tu citais 82, est-ce que on n'est pas au début d'une saison de dingue?
Moi je pense qu'il y aura plus que 2 ou 3 pilotes. Moi, je pense que ouais, qu'on va avoir quand même jusqu'en milieu de saison pas mal de pilotes qui peuvent gagner, qui peuvent profiter des erreurs des autres. Après, bon, ça reste quand même pour des questions de développement, quoi. Ça va rentrer un peu dans l'ordre au niveau des Sauber, des Williams et tout, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de développement que les Red Bull, McLaren, et Ferrari.
Parce que c'est vrai qu'en début de saison, on n'a pas de pleine domination. Tu disais, McLaren, ils sont rapides, mais en course, c'est pas ça. Red Bull, on pense qu'ils peuvent faire des choses, mais c'est pas ça. Il y a pas d'hyper domination.
C'est surtout que McLaren, certes, ils sont rapides, mais surtout, c'est qu'on a l'impression que c'est la seule équipe à peu près qui n'a pas de doute.
Oui.
On voit bien derrière, Red Bull a des doutes, Mercedes a des doutes, Lotus a des doutes, Ferrari a des doutes. C'est ce qu'il faudra voir, c'est quelle est l'équipe qui va réussir à résoudre ces doutes. On a vraiment l'impression qu'il suffit juste d'un déclic pour que, c'est ce qui est aussi excitant, quoi. C'est qu'on se dit, pour le moment, McLaren est devant, mais peut-être que dans 3-4 courses, ce sera plus McLaren.
Oui, non, mais tout à fait. Ouais.
Donc tu es d'accord que ça peut donner un truc
Et surtout au niveau des essais, parce que je sais pas combien de temps il faut remonter pour avoir des essais aussi serrés au niveau qualif, mais ça veut dire que le gars il se rate, il se retrouve comme Vettel, 11e, 12e, donc ça change tout, quoi. Je sais plus, c'est un ingénieur là qui disait que ça sera sur la régularité que ça va jouer cette année. Et c'est exactement ça.
Bah ça c'est ça, oui. Donc au classement du SAV, et bien c'est Button qui est premier avec 47 points. Ensuite on trouve ex aequo Hamilton et Alonso avec 39 points. Et justement, bah après on a un beau paquet, puisqu'on a Perez, Raikkonen à 29, Weber 28, Vettel 27, Rosberg 25.
Alors j'en profite parce que Shinji, on est obligé d'avoir une petite pensée pour quelqu'un qui a co-animé cette émission pendant un an et demi.
Oui.
Qui est un grand fan de Rosberg et qui, le premier truc qu'il a fait après la course, c'est m'envoyer un SMS pour me dire ouais. C'est, on a une petite pensée pour Enzo.
Oui, il a mis un tweet aussi parce que on l'a reçu. C'est vrai.
Qui nous a saoulé avec Rosberg. Ah. Voilà, quoi. On lui dit ouais.
Bravo Enzo.
Hein. Bah, bravo Enzo.
Tu y as cru avant tout le monde. Au classement des équipes, c'est McLaren, hein, 86 points devant Red Bull 55, Ferrari et Lotus 39, noté Mercedes 35. Dans l'autre classement, Lewis Hamilton est premier 45 points, Jenson Button 43, Alonso 37, Weber 36. Chez les constructeurs, McLaren 88, Red Bull 64, Ferrari 37. Déjà un petit écart. Ouais. Allez messieurs, on va passer au fait marquant de la course. Et déjà, on va revenir au fait marquant du Grand Prix de Malaisie. Vous avez été 244 à voter. 244.
C'est énorme.
Merci. Tout simplement, merci. En troisième place, est arrivé troisième le deuxième naufrage de Grosjean.
C'était qui ça?
54 votes.
C'était pas Buchor,
c'était
ça?
C'était pas moi.
Non, c'était Buchor alors.
En deuxième place, 81 votes, l'improbable victoire d'Alonso, 33%.
Ça, je crois que c'est moi ça, non?
Je crois que le premier c'était moi. 109 votes, donc merci, 44%. La révélation Sergio Perez. Donc ça veut dire que ce serait Eric?
Ouais. Alors Eric, vas-y, trois faits marquants.
Vas-y.
Trois faits marquants. La non-qualification en Q3 de Vettel.
Hein?
Ah, ah non, tu veux dire pour le Grand Prix de Malaisie?
Non, c'est juste que ça nous étonne.
Ah non, hein? Mais à toi de voir.
Donc, la ouais. non-qualification de Vettel en Q3.
Je ouais. te remercie.
Voilà, remercie-le. Hein.
Après, bon, bah, la victoire de Rosberg.
Non.
T'as droit à un.
C'est chacun un.
Ah, c'est, pardon, excuse-moi.
Et là, tu comprends pourquoi.
Non. Alors voilà. Alors, on va être gentleman. D'accord. Tu acceptes. Ça serait pas juste que je te le prenne, parce qu'on a un petit contentieux, Shinji et moi, savoir qui va être le meilleur. Mais là, si je laisse ça, c'est la victoire quasiment assurée pour moi, Shinji.
Alors, en même temps, moi, quand j'ai mis Sergio Perez, voilà.
C'est vrai que t'es un peu fumier. Mais moi, je serais élégant, Shinji. Voilà. Alors, est-ce que tu es sûr, Eric, de ton fait marquant? Tu ne peux en choisir qu'un.
Tu peux en choisir qu'un.
Ouais, non, mais je maintiens mon premier choix.
D'accord. La non-qualification de Vettel en Q3. Bon.
Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais mettre tant que je cherche? Alors, qui je pourrais mettre? J'ai bien aimé la course d'Alonso. J'ai pas envie de mettre ça. Je mettrais bien un truc sur les McLaren. Comment je pourrais formuler ça? Attends, faut que j'arrive à trouver la formulation sur les pilotes McLaren. J'ai trouvé. Rosberg remporte sa première course.
Oh, dis donc, quelle surprise!
J'ai hésité, ça m'est venu comme ça sur la fin, j'ai dit, je suis désolé.
Dis-lui merci.
Merci, Eric.
De rien.
Voilà, si vous êtes 244 à voter, hein, je vous remercie d'avance, c'est un honneur. Je crois que cette victoire est sous la victoire du mérite. Et voilà, je pense que il y a des années de travail derrière, beaucoup de préparation, et voilà, le Grand Prix que j'ai
Attention,
vu deux fois, hein, les qualifications
veux,
et tout.
Je veux que tu gagnes bien.
Mais bah, oh, par contre, tu choisis un peu de trucs.
Bah, je vais dire le faible écart entre les équipes.
Ça, c'est le truc qui a l'air bien, mais qui, en fait, tu sais très bien que ça va faire 3e.
Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as une McLaren ou une Red Bull ou une Mercedes face de toi et que toi, que tu n'as qu'une pauvre HRT, hein?
C'est vrai.
Comment tu fais?
Bah, tu te ranges délicatement sur le côté, t'attends que passe.
Bah, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je fais le faible écart entre les équipes. Donc... Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Chine 2012? Nous vous proposons Rosberg qui remporte sa première course. Moi, je dis rien. Hein. La non-qualification de Vettel en Q3 ou bien le faible écart entre les équipes? Pour voter, hein, bah, mais normalement, vous avez...
Là, c'est que tu les donnes déjà dans l'ordre.
C'est pas impossible.
Il influence le vote.
Donc, si vous nous écoutez à partir hein, du site Fan F1, normalement, vous avez déjà vu le sondage, hein, puisqu'il est dans le, bah, dans l'article. Sinon, bah, il faut se rendre tout simplement sur le site Fan F1, et donc sur l'article hein, consacré au SAV donc, du Grand Prix de Chine.
L'article, c'est pas difficile. Hein, maintenant, on est tout le temps en une, tout en haut à droite, dans la partie magazine. Vous avez 3 magazines, et il y a le SAV de la F1 dedans. C'est facile à trouver.
Et dans le fil des articles, il y a un tampon SAV de la F1.
Et n'hésitez pas hein, à aller sur iTunes, parce qu'on est disponible sur iTunes, et surtout à nous mettre une note sur iTunes.
Oui.
Genre au hasard, 5 ouais. étoiles. Vraiment au hasard.
On a combien d'étoiles, tiens, en ce moment?
5.
Ah, merci. Dino va passer au concours.
Oh, tu me surprends, Shinji. Oui, passons au concours.
Pourtant, il est toujours là, le concours. Hein,
Oh, merde. Je viens de me rappeler d'un autre truc. Non, ça y est, je viens de me rappeler du proverbe, j'ai dit.
Ah, bravo.
Pour une fois.
Je l'avais oublié encore, j'ai dit.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours, rappelez-vous le concours du Grand Prix de Malaisie. La question vous était posée par un certain Globen qui, malicieux, avait demandé de nous désigner quelles étaient les 3 variétés de NEM les plus répandues. Et Shinji, je dois avant tout te remercier puisque tu as relancé cette machine, comment dire...
Comme quoi, mettre des trucs à la con, il y a plus de gens qui répondent.
Oui, mais il y a aussi des gens qui répondent plus long. Voilà. Alors, il y a des gens qui répondent court et il y a des gens qui répondent long. Alors, d'abord, Shinji ou Eric, je vais vous demander, avez-vous, de par hasard, la réponse.
Donc il y en a trois. Bon. Hein, donc il y a une aime de porc.
Oui.
Aime de veau peut-être.
Non.
Non.
Aime de crevette.
Aime de crevette ou de crustacé en général.
Alors, le troisième.
Aime de bœuf.
Non.
C'est un truc qu'on mange chez nous.
Pâté impérial.
Le canard.
Alors, l'auditeur, retenez bien que pour CG, ce qui fait cote, c'est le canard.
Mais moi, j'en ai une espèce de.
Non, arrête, CG.
Les nems de poulet.
Les nems de poulet. Donc voilà, c'était, vous avez le choix entre trois. Même si vous allez voir que la question fait débat. Alors, nous avons reçu quatre réponses. Et par conséquent, quatre questions. Alors, je vais quand même vous lire certaines réponses. Hein, alors, justement, j'ai une réponse qui est la suivante. Les trois sortes de nems les plus répandus dépendent de la région dans laquelle on se trouve. Donc, il n'est pas possible de répondre précisément à cette question. De plus, il en existe plein de sortes qui sont célèbres. Le porc, le poulet, la crevette, le veau ou le poisson.
Tu vois, il y a du veau.
Deuxième réponse. Pour les variétés de nems, après avoir d'abord pensé au nem mexicain, ou au nem popper, ou Nemo, je me suis ravisé et effectué une recherche en bonne et due forme. En voici le résultat. Le nem de porc, le nem au poulet et le nem au crustacé. Mmh. Et là, c'est là que je dis merci Shinji. Mais encore, cet auditeur n'est pas seul à avoir répondu de façon aussi enthousiaste. Je crois qu'il y a des règlements de compte en interne en fait. Puisque nous avons une troisième réponse développée qui est la suivante. La question posée par Globen consistait à énumérer les trois variétés de nems les plus répandues. Avant de répondre, j'aimerais faire remarquer à notre ami Globen que le nem est un mets originaire du Vietnam et non de Chine. Parenthèse fermée. Ayant encore un souvenir cuisant de la question de Globen sur la traduction japonaise de « J'ai divorcé », dont la réponse officielle était « Y'a ma nana qui m'a quitté », un grand souvenir, vous savez.
Oui, c'est vrai.
J'avais le début de la réponse suivant. Le nem appelé plus jamais France, ou le nem me quitte pas, mais malgré tous mes efforts, je n'ai pas fait la rencontre du troisième type de nem. Je vais donc me rabattre sur une réponse classique issue de Wikipédia, le nem ran, le nem chua et le nem numong.
Super. Ça,
ce qui fait que, je ne sais pas si la réponse est bonne, j'ai dit, est-ce que la réponse est bonne?
Ah, parce que tu me poses vraiment la question.
Oui. Parce que je ne parle pas le chinois, j'ai dit. Donc,
ah, parce que tu crois que je parle le chinois.
Bah non, mais bon.
Bah, en fait, bon. Sur Wikipédia, en fait, le Nem Ran, c'est dans le nord du Vietnam.
Ouais. Alors, le Nem Chua, c'est...
Alors, appelé Nem Ran dans le nord du Vietnam et Cha Gio dans le sud, où l'appellation Nem réfère plutôt à des morceaux de porc de forme carrée fermentée, Nem Chua, ou une brochette de boulettes de viande de porc cuite au barbecue, Nem Nuong.
Waouh.
Ouais, j'ai envie de la mettre bonne parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec du vietnamien chinois.
Alors, je vais vous lire la question. Je crois qu'Eric peut participer, hein, puisque Eric, tu nous confirmes que tu n'as pas envoyé de.
Non, de je réponse. Confirme.
Alors, voici les questions. Je rappelle que les questions devaient porter soit sur le Bahreïn, soit sur le vide.
Oui.
Avec une première question qui commence déjà très fort. De quelle couleur est le vide? Voilà. Alors là, si vous avez la réponse, ça nous intéresse parce que nous ne l'avons pas. Donc, ça nous intéresse. Envoyez des équipes de chercheurs ou je sais pas. Avec ensuite une deuxième question. À la veille du Grand Prix du Bahreïn, combien de pilotes ont pris le départ d'au moins une course comptant pour le championnat du monde, mais sans marquer le moindre point? C'est encore une question qui joue sur les deux thèmes, la notion de vide.
Vide et de Bahreïn, ouais.
Et de Bahreïn. Une autre question qui joue sur les deux thèmes. Qu'a pu recevoir un enfant de Bahreïn grâce à l'isolation sous vide. Oui, c'est là que tout d'un coup, on est super content de demander aux auditeurs de nous envoyer des questions. Et enfin, une dernière question. Quel est le premier pilote ayant la boîte crânienne essentiellement composée de vide à avoir tourné sur le circuit de Sakhir? Et là, je dois dire que ça porte un jugement personnel.
Ouais, mais tu sais quoi? J'ai envie de prendre celle-là. Pour connaître le jugement personnel, justement, des auditeurs.
Très bien. Donc, tu es d'accord, Eric?
Oui, au moins que...
Ouais, c'est assez marrant.
Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse? Alors, la couleur du vide, on ne l'a pas. Hein.
Non.
La veille du Grand Prix du Bahreïn, on n'a pas la réponse, parce qu'en fait, il avait dit au 8 avril. Mais depuis, est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui ont marqué des points ce week-end? Bah oui, il y a Grosjean. Donc ça fait théoriquement 414 pilotes qui ont pas marqué des points.
Oui.
Et 321 pilotes qui ont marqué des points.
Tu vois, la première, je l'ai pas prise parce que je me suis dit que Dino il va recevoir des réponses sur deux pages.
Oui, parce que là, je vais rien recevoir, j'ai dit hein. Je vais recevoir des mails d'insultes et tout, mais non, mais c'est pas grave. Et enfin, sur qu'a pu recevoir un enfant de Bahreïn grâce à l'isolation sous vide, c'est un bonhomme de neige. Alors le challenge relevé par Panasonic était de transporter la sculpture de glace sur plus de 8500 km sans utiliser un frigo pour faire des économies d'énergie. Pour ce faire, le conteneur avait deux couches entre lesquelles le vide était fait pour que les variations de température de l'extérieur ne se transmettent pas à l'intérieur, faisant fondre la neige. Et tout ça serait parti du souhait d'une petite fille sur Facebook.
Celle, la troisième, je l'ai pas prise parce que je me suis dit, tu vas avoir des réponses du genre une matraque ou une balle. Je me suis dit non quand même.
Donc, je tiens à féliciter. Je crois que c'est sa première victoire. C'est un nouveau participant du concours Tapa Position.
Pour une fois que c'est pas de l'aubaine.
Alors, bravo Germain.
Bravo Germain.
Et je vous rappelle la question de Germain, qui est la suivante. Quel est le premier pilote ayant la boîte crânienne essentiellement composée de vide à avoir tourné sur le circuit de Sakhir? Alors, pour nous envoyer vos réponses, c'est sur concours@savf1.fr. Vous avez jusqu'à mardi prochain, 18h-19h. On en profite aussi pour vous signaler que, donc, comme on l'avait dit la semaine dernière, il y aura bien un SAV de la F1.
Il y aura un grand prix.
Puisqu'il y aura un grand prix. Voilà. Maintenant, on prendra pas d'invité. On verra ça avec nos chroniqueurs pour voir qui viendra. Tout simplement parce qu'au cas où qu'il y aurait un problème ou au cas où que le grand prix sera annulé à la dernière minute, etc.
On sait jamais. Voilà.
On transformera quoi qu'il arrive l'émission dans un mag. Donc du coup. Par conséquent, on va pas vous faire venir pour vous annuler. Donc voilà, on préfère tout de suite vous dire, ça sert à rien. Mais il y a de la place après pour les épreuves suivantes, Espagne, Monaco et compagnie. Et mesdemoiselles, rappelons, vous êtes les bienvenus. Pour ça, c'est contact@savf1.fr.
Alors messieurs, on va se tourner justement sur cette prochaine course. Donc qui, hein, au moment où on enregistre, hein, on est mardi soir. Il y a de fortes chances, hein, qu'elle ait lieu, donc aura lieu à Bahreïn. Alors d'abord. Mon cher Dino, il y a le travail de l'invité.
Oui.
Alors, cher Eric, et pour le coup, c'est de circonstance, puisqu'on l'a évoqué, il y a des gens qui vont boycotter le Grand Prix, qui ont essayé de boycotter, qui ne vont pas regarder le Grand Prix. Eh bien, vous êtes chanceux, car grâce au SAV, eh bien, vous allez avoir des idées sur quoi faire. Hein. Vous ne regardez pas le Grand Prix, eh bien, vous allez pouvoir faire d'autres choses, et ça, c'est grâce à Eric. Eric, nous t'écoutons.
Merci, Eric.
Ah oui, bon. Donc, eh ben, on va faire quelque chose de circonstance. Donc, je dirais en premier, aller voter.
C'est vrai, on pourra pendant cette heure-là aller voter.
Oui.
Hein ouais. Donc, après, j'ai mis calculer ses impôts. Ça va venir.
Oui, c'est aussi de circonstance, puisque ça y arrive.
Merde.
Oui.
Ah, oui. Après, j'ai mis manifester.
C'est vrai.
Hein donc, après j'ai mis après ça devenait plus compliqué. Après j'ai mis écouter l'évolution des scores des candidats à l'élection présidentielle, enfin, ou le taux de participation.
Alors le taux de participation, puisque
normalement à ce temps-là oui.
Ouais, à ce temps-là oui. De participation.
Puisque ouais. Même les sites belges et suisses n'auront pas à ce temps-là les estimations.
Bon après bêtement aller manger des glaces ou aller au resto.
Avec un peu de chance, il fera beau. Hein. Oui. À ce moment, ouais. Enfin, il fait froid, mais après tout, s'il fait beau.
Et dimanche. Chez toi, il fait froid.
Il fait froid sur toute la France. Hein. Monsieur de la Réunion, hein, on te prévient, il fait froid sur toute la France.
c'est pour ça que j'ai rajouté au restaurant, parce que j'ai pensé à vous.
Ah, les gens de la Réunion, ils m'énervent.
Après, j'ai mis. Je sais pas si ça avait été déjà dit, ça. Lire un livre, une revue.
Je crois pas.
Non, ça n'a pas été dit.
Je crois pas, non.
Mais quelle revue exactement? Ça dépend, parce que vous avez des revues que je ne lis pas le matin.
Oui, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Une revue. Et alors après, j'ai mis un truc spécifique à la Réunion. J'ai mis s'entraîner pour la Diagonale des Fous.
La Diagonale des Fous.
Ouais. Alors la Diagonale des Fous, c'est un trial, enfin pas un trial, hein, comment ça s'appelle une course à pied là. Non, c'est une course à pied. Il traverse toute la Réunion.
Ah ouais. Tous les asiles de la Réunion en fait.
Ouais, non mais il y a 11 000 mètres de dénivelé. Et c'est 150 km de course. Hein.
Ça va.
Ouais, c'est tranquille.
Attends, les facteurs à la Réunion, ils foncent tous les jours. Alors c'est bon.
Et il y en a qui font. Et ceux à Mafate effectivement, ils font à pied et puis il y a qu'un chemin, ils le font à pied. Voilà, donc c'était 7.
C'était ça, oui, c'est ça. Oui, c'était 7.
Bah, bravo.
C'est très bien, vous avez plein de choses à faire, vous voyez. C'est bien. Alors, messieurs, les pronostics. Qui donc? Moi, je dirais Hamilton, parce que depuis. Enfin, il va en gagner une, donc voilà, pourquoi pas à Bahreïn.
Ouais, moi, je dis que c'est la police qui va gagner.
Ouais, moi je mets Hamilton, Raikkonen en deuxième et en troisième Button.
Je veux pas qu'il gagne Kimi, non. Il peut gagner une course, mais pas celle-là.
Non, ah oui, dans les circonstances. Moi, il faut que ce soit Lewis qui gagne, tu vois. À jamais, il sera entaché, son nom.
Donc tu dis aussi Hamilton, Dino?
Non, moi je dirais Button.
Button. Ok. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission.
Oh, je suis dit, on peut encore attendre. Non, je dis, on a sans doute encore des trucs à dire, tu sais, je pense. Laisse-moi le temps.
J'ai un truc à dire pour Dino.
Ah bah, nous t'écoutons.
Alors, en plus, c'est un chiffre inutile. C'est même, enfin, c'est un chiffre, c'est 73. Et un deuxième, c'est 3. Ils ont un rapport, les deux. Et c'est spécialement pour Dino.
Oula.
Oh, ça concerne Ferrari, ça.
Ça concerne Ferrari.
73.
Ouais, et 3. C'est, les deux vont ensemble.
Attends, tu penses à réfléchir en même temps que je cherche un proverbe.
Mais tu l'avais tout à l'heure.
Mais non, je l'avais pas tout à l'heure.
Non, il s'est rappelé qu'il devait
faire. Il s'est rappelé qu'il avait, d'accord.
Du coup, maintenant, je cherche. C'est pour ça qu'il disait que je suis peuple. 73, un nombre de pilotes?
Non. C'est un chiffre inutile. Hein. Ça n'a rien à voir avec la F1.
Ah ouais, d'accord.
Mais ça concerne Ferrari.
C'est un rapport avec Dino, avec ce qu'a fait Dino.
Ah bah c'est un rapport avec la Dino.
Avec Dino et donc avec Ferrari.
Avec Dino moi ou avec Dino le vrai Dino
non,
Ferrari?
Non, toi.
Un rapport avec moi? Moi j'ai un rapport avec Ferrari. Je vais descendre dans
le
garage.
Merde, il le sait pas.
Ah merde. C'est un rapport avec moi. Quelque chose que j'ai fait dans le SAV? Ou oui. C'est un rapport sans que je sache?
Quelque chose que tu as fait dans le SAV.
Enfin...
Donc deux fois où j'ai mis un pilote
Non.
C'est pas le nombre d'émissions.
Non.
On est pas loin, Chetty.
Oui, c'est pour ça.
73, qu'est-ce que j'ai fait 73 fois, Chetty?
Vous voulez la réponse, moi, parce que...
Ouais. Ah, non, maintenant, je veux trouver, maintenant.
Non, je ne trouverai pas, non, parce que c'est... Bon, vous rappelez que, pour célébrer la victoire de Fernando Alonso, Dino nous a magnifiquement interprété l'hymne italien.
Il y avait des fautes?
Non, pas du tout, non. Ah. Par contre, on a eu... Suite à ça, à la Réunion, on a eu quand même 73 mm de précipitation en 3 heures. Donc, s'il te plaît, Dino, même si
arrête.
Par hasard, il gagne, voilà.
Fratelli d'Italia, l'Italia, c'est destin. Allez hop, 50 mm, j'en remets une autre couche.
Comment il commence à pleuvoir.
Bon, tu as trouvé ton proverbe, toi?
Non, bah, je vais faire à l'arrache, Shinji. Je vais le trouver. Le temps que tu as transmis, je vais le trouver.
Bah, déjà, on va remercier Eric hein, de nous avoir accompagnés hein, pour cette émission. Ça a été un plaisir.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on dit, Dino? Est-ce qu'il y a des adresses mail, des trucs qu'on n'aurait pas déjà donné? Merde, on a déjà donné les adresses, on a déjà dit qu'on était sur iTunes, on a déjà dit qu'on était sur Fan F1, et n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sûr.
Fan F1, alors mais pourquoi je réponds? Je devrais le faire, moi.
C'est bien, t'as été plus réactif que la dernière fois.
Tu peux parler du répondeur, Shinji, parce qu'on n'a pas encore de questions pour la prochaine émission.
Oui, n'oubliez pas, vous pouvez poser des questions aux animateurs et aux chroniqueurs du SAV hein, lors du mag du SAV. Pour cela, suffit de nous envoyer la question sur l'adresse mail répondeur@savf1.fr. Je répète, comme ça laissera du temps à Dino. répondeur@savf1.fr. Hein. En plus, on répond aux questions.
Hein. Oui, c'est vrai. merde, vache. Ah, j'ai rien, j'ai pas d'inspiration.
Je peux
rien.
Pas étirer hein, éternellement l'émission non plus.
Depuis tout à l'heure, j'ai qui ménage sa monture va loin, mais c'est pourri. J'essaie de faire un truc avec, mais j'y arrive pas. Et voilà, je suis parasité par ce proverbe. Il faut que je trouve un truc avec Rosberg, un truc qui rime avec Berg. Berg. Qui Rosberg Non, c'est pourri. J'ai dit, mais merde, aide-moi, je sais pas, moi de l'inspiration, je sais pas.
Berg comme iceberg, tiens, c'était le.
Oui, voilà.
Le centenaire du Titanic. Tiens, hey, oh.
Oui. Ah oui. Mince, merde. Rosberg. À l'horizon, c'est pas merde.
Ouais, mais oui, Rosberg à l'horizon.
Oui. Non, mais c'est pourri. Ça, j'ai dit, je peux pas laisser l'émission comme ça. Il faut que je trouve un truc mieux. Non, j'ai rien. J'ai rien. Je suis sexe, Sylvie. J'ai rien. Je vous jure, j'ai essayé. Mais ça fait déjà trois semaines que je cherche comment glisser le mot prostatique dans un article.
C'est vrai.
Et que je ne sais pas comment je vais faire.
La réussite deux jours.
Sincèrement, là, je peux pas. Je suis désolé, mais on va se quitter sans proverbe, je crois. Je
dis, bah si, que... moi, tu vois, je vais le ressortir parce que toi, tu as peur de la honte, mais moi, je n'ai pas peur de la honte. Alors, je salue tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il y a 100 ans, sur le Titanic, ils étaient là et ils ont dit, oh, Rosberg à l'horizon!
Non! Non!